Cascodeur Podcast, épisode 210. Javax is coming. Enregistré le 6 mai 2019.
Soutenez les Cascodeurs sur Patreon, patreon.com/lescascodeurs.
Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 210 des Cascodeurs. Nous sommes aujourd'hui le 6 mai et nous avons aujourd'hui donc Audrey, Arnaud et Guillaume ici présents.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors, pas mal de news. Par quoi on commence les amis? Par Apache qui rejoint... la fondation Apache,
ouais.
Qui, rejoint GitHub, c'est pas rejoindre GitHub, mais en tout cas qui travaille en collaboration avec GitHub.
C'est ça.
Donc en particulier les... Alors c'est un process qui a commencé quand même déjà il y a un petit moment, hein. Ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, mais par exemple, historiquement sur les projets Apache, donc on avait notre Git à nous et on faisait un miroir chez GitHub. Mais là maintenant, il y a toujours quand même les deux Git en parallèle en miroir, mais on va pouvoir utiliser GitHub comme n'importe quel autre projet GitHub et donc accepter plus facilement les contributions, les pull requests, etc. Et ce qui est plutôt pas mal, et en tout cas en particulier du point de vue des committeurs, c'est quand même plus pratique.
C'est ça. Ça fait plusieurs années maintenant que bon, faut avouer qu'au tout début, ça c'était un petit peu compliqué la mise en place.
On parle pas de CVS et Subversion.
Oui, c'est un peu ça si vous vous souvenez.
Mais ça a commencé comme
ça. Si vous vous souvenez, il y a encore quelques années, enfin il y a pas si longtemps que ça, hein, Subversion était encore largement utilisé dans la communauté Apache pour la simple et bonne raison que c'est un projet Apache. Donc c'est vrai que ça a un peu traîné des quatre pieds pour pouvoir avancer sur le sujet de la migration de Git. Après il y a des il y avait des grosses contraintes. Git c'est hyper distribué, c'est super cool, on peut faire plein de choses, mais Apache a une grosse partie légale qui impose à ce que le code source que l'on gère, puisque Apache ne gère que du code source, hein, faut bien s'en rappeler, les binaires qu'on livre ne sont que
convenience,
voilà, c'est ça, c'est
mais la facilité,
voilà, la facilité, mais ce que la fondation elle se livre, c'est du code, et le code donc doit être complètement stocké, référencé sur le hardware Apache. Et donc, bon, bien sûr, GitHub est arrivé très vite dans le paysage. Tout le monde utilisait GitHub, tout le monde veut GitHub. C'est vachement plus cool, c'est là où sont les gens, c'est vachement plus pratique. Faut bien avouer, les pull requests, etc. Et donc, Apache avait monté son petit service Git au tout début. Très rapidement, ils en ont monté un système que tu disais là de synchro avec GitHub, de mirroring, ouais. Qui marchait d'abord dans un sens et ils ont très vite réussi à faire le double sens, enfin la synchro dans les deux sens. Et là, effectivement, ce qu'ils annoncent, c'est que voilà, le service ancestral de hosting privé, enfin de hosting spécifique de Git, lui, est complètement arrêté. Il reste que ce système de mirroring qui sert aussi de backup, qui reste activé. Donc, on peut nous, effectivement, en tant que committer, utiliser l'un ou l'autre. Des systèmes GitHub ou le système Apache, ouais. Ce que eux ils avaient en interne pour hoster du Git lui-même, là c'est complètement arrêté, ça a été arrêté et tous les services sont synchronisés, voilà. Donc c'est vrai que c'est quand même très très bien pour les communautés, enfin je pense que toi t'as dû le voir côté Groovy, moi je l'ai vu côté Maven, ouais, et autres, ouais. Le fait qu'il y ait GitHub, ça aide énormément la contribution par rapport à ce qu'on avait il y a quelques années quand on était sur du Subversion, et voire même je me rappelle des tout débuts où les patchs passaient via des patchs Subversion qui étaient mis dans Jira et que les committeurs ils appliquaient. Bon, ça a bien évolué.
C'était la belle époque.
C'est ça. C'était sympa. Voilà. Donc une bonne nouvelle. On a arrêté le Git privé d'Apache pour se concentrer uniquement sur le GitHub plus ce fameux backup synchronisé chez nous. Voilà. Donc une belle avancée.
Effectivement. Sinon, côté langage, il y a la passation, j'allais dire, de pouvoir de support sur la maintenance d'OpenJDK 8 et JDK 11 d'Oracle à Red Hat.
Ouais, donc c'est maintenant Red Hat qui va être responsable de tous les bug fixes et les patchs de sécurité pour Java 8 et pour Java 11. Ils prennent pas le relais sur les JDK 9 et 10 parce que comme ce sont des short-term releases qui ont une viabilité de 6 mois, il n'y a pas lieu en fait. Et donc voilà, donc il y a pas d'évolution majeure hein, évidemment à attendre sur les versions 8 et 11. Ça sera pour la 13 qui arrive en septembre, mais c'est maintenant officiellement Red Hat qui est responsable de cette partie.
C'est plutôt pas mal, hein. Red Hat, un acteur.
Bah, c'est un acteur engagé depuis longtemps.
Oui, voilà, depuis très longtemps, qui contribue énormément au JDK, OpenJDK.
C'est tout à fait cohérent.
C'est chouette que ce soit eux.
Ouais.
Non, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour la communauté d'avoir un acteur aussi présent et aussi actif qui prenne le lead. On a bien vu, et on en reparlera plus tard, que Oracle, de son côté, bon, a toujours un peu de mal à gérer les communautés, gérer les efforts en commun.
Oracle n'aime pas les gens. Dites-le-vous bien, une fois pour toutes.
Ils aiment.
Bam!
Ils aiment les gens. C'est juste qu'ils aiment plus l'argent.
Ils ont l'argent. C'est ça.
Voilà.
Je le rappelle, dans argent, il y a gens. Quand même.
Voilà.
Oui, mais ça fait pas pareil.
Bon. D'accord. Et sinon, côté, alors là, c'est toujours côté Java 8, il y a aussi le support Docker dans Java 8. Parce que, historiquement, quand Java 8 tournait dans un container, Java pouvait croire qu'il avait plus de mémoire ou de CPU aussi, qui lui était alloué, que ce que le container l'autorisait vraiment à utiliser. Et ce qui faisait qu'on avait des out of memory exceptions, etc. Donc là, il y a des nouveaux flags et paramètres qu'on peut setter pour être sûr et bien spécifier et que Java, en tout cas, voit la bonne quantité de RAM et de CPU qui lui sont alloués.
C'est ça. Et il y avait eu déjà pas mal d'améliorations. Donc en fait, c'est du backport, il me semble, mais ça avait déjà été beaucoup amélioré dans... Alors c'est lequel ? C'est le 10 ou le 11 ? Je sais plus. et là, donc, ils l'ont effectivement repoussé tout ça sur la version 8. Alors attention, justement, de bien utiliser OpenJDK, parce que c'est arrivé dans les toutes dernières versions et updates de Java. Ce qui veut dire côté Oracle, ça n'est que dans les versions payantes. Ça n'est plus dans les versions public update, etc. Voilà. Donc, il faut, si vous voulez utiliser ça, il faut bien faire attention d'utiliser OpenJDK. Sinon, vous risqueriez d'avoir à payer votre petit tribu à Oracle.
J'ai retrouvé, je crois que c'était Java 10 où ça avait été rajouté.
Voilà.
Et donc là, dans l'article qu'on a mis dans les show notes, ça précise bien. Donc, ça avait était porté sur Java 8, mais c'est dans l'update 212 de OpenJDK, comme tu le disais.
Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça. Là, je retrouvais plus. Voilà, c'est ça,
ouais. Et alors là, un petit peu rien à voir avec Java. J'aurais peut-être dû le mettre après, vu qu'on va parler de Javax. Là, j'ai... Je tombe régulièrement, en fait, sur ce site, mais maintenant, je m'y suis abonné. Il y a... alors, je sais pas comment ça se prononce. Baeldung, B-A-E-L-D-U-N-G.
Je dis comme ça aussi, ouais.
Idem.
Baeldung, je dis comme ça. Alors, bon, ouais. J'imagine que c'est comme ça. Hein. Ou peut-être Baeldung, ça fait un peu allemand sans les umlauts. Je sais pas. Bref. En fait, ils font des tonnes d'articles sur Java, qui sont vraiment top, sur plein de sujets, sur l'open source, sur Spring, sur Java 2e, sur les frameworks de test, Java, etc. Énormément de contenu. Et là, depuis peu, j'ai vu qu'ils proposaient aussi des articles sur Groovy. Et ils ont plein d'articles sur Groovy, des tutoriels sur différents sujets. Et j'ai trouvé ça super chouette. Donc, hormis le fait que là, je l'ai mis parce que j'avais vu tous les articles sur Groovy, mais je vous invite à regarder ce site. Il y a plein d'auteurs hein, sur cet article-là. Donc, c'est pas juste Eugène ou Eugene, ou je sais pas comment on dit, Baeldung qui bosse là-dessus. Mais il y a plein d'autres auteurs qui contribuent des super articles concrets, avec du code qui marche, etc., qui sont super intéressants dans la sphère Java. Et juste en passant, vu que j'ai mentionné Groovy, là j'ai fait les stats ce matin, parce que tous les trimestres on doit faire les rapports au board de la Fondation Apache sur l'évolution de nos projets, de la communauté, etc. Et là j'ai calculé que ça y est, Groovy vient de dépasser le quart de milliard de téléchargements depuis sa création, 250 millions de téléchargements de Groovy depuis 2003.
C'est
quand même assez énorme.
C'est gigantesque.
Félicitations.
Et c'est 50 millions juste depuis le début de l'année. C'est-à-dire un cinquième, c'est juste depuis le début de l'année. C'est hallucinant.
C'est énorme.
Ouais.
C'est dû à quoi, selon toi, cette accélération?
Et j'en ai aucune idée. Je sais pas. Parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler, et pour autant, ça continue d'être téléchargé à mort.
Et c'est tous les téléchargements que tu récupères via quoi? Via les
Maven Central plus Bintray.
Plus Bintray,
De Gifrog.
Plus peut-être, enfin, les distros côté Apache, pas grand monde doit récupérer sur le...
J'ai pas les chiffres des distros d'Apache, et j'ai pas, genre, tu sais, les images Docker ou des choses comme ça, qui ont du Groovy dedans.
Ouais. Oui, ça.
Mais après, par contre, je pense que dedans, il y a quand même aussi tous les builds d'intégration continue, tu sais, qui build de zéro.
Ah oui, avec Central, avec Maven Central,
Logiquement, ça, s'ils font des builds clean, je sais pas, mais.
T'as raison, ça doit, c'est vrai que c'est une tendance forte parce que, avec la containerisation de la CI/CD, aujourd'hui, les gens ont tendance à repartir depuis des repos clean, ils ont pas toujours des proxys. Donc effectivement, ça peut jouer sur toutes ces statistiques parce que c'est vrai qu'on les voit un peu partout. Central, je les ai pas en tête, j'aurais pu les retrouver, mais.
Mais du coup, j'aimerais bien voir d'autres statistiques de Maven Central sur d'autres projets aussi, voir si c'est général ou est-ce que, par rapport à la hausse générale du fait des process CI/CD, est-ce qu'on s'en tire encore mieux ou
faudrait qu'on demande à Brian ce genre de statistiques parce qu'ils les ont obligatoirement et mais je pense qu'effectivement ça peut être lié à cette tendance aujourd'hui depuis quelques années à faire du Docker un peu partout, tu pars de from scratch donc tu télécharges la terre entière.
Exactement. Yes. Et sinon repassons à Java mais avec un X, Javax.
Au sujet donc, qui fâche.
Le sujet qui fâche, le gros sujet là du moment, et c'est même dommage qu'on n'ait pas nos experts Java EE, Antonio et Emmanuel avec nous. Donc Oracle et la Fondation Eclipse se sont mis d'accord donc sur le futur de Java EE, et plus particulièrement du coup ça s'appelle Jakarta EE à la Fondation Eclipse. Mais justement, dans les termes de ces négociations, accords, etc., si on veut faire évoluer les spécifications de Java / Jakarta EE, on ne pourra plus utiliser le namespace, le package Java X. etc. Ce qui est fatalement problématique. Donc quand une spécification ne bouge pas, elle peut rester. Par exemple, Javax inject, Javax je sais pas quoi, on peut garder. Mais dès lors que, à un moment, on va vouloir les faire évoluer, rajouter des nouvelles méthodes, des raccourcis pratiques en Java 40012 parce que on ne fait plus que des streams et je ne sais quoi. On peut imaginer toutes sortes de raisons pour faire évoluer une spécification. À ce moment-là, on n'aura plus le droit d'utiliser Javax comme package. Il faudra tout migrer en Jakarta. Quelque chose. Donc il y a ça, l'interdiction de l'utilisation du package, de l'utilisation de manière générale de la trademark Java, mais ce qui veut dire aussi les noms. Alors c'est là où je suis pas 100% sûr d'avoir compris, mais tout, même les noms, donc Jax RS, etc. C'est aussi du coup des marques déposées dépendant de Java, et on n'aura plus le droit de les utiliser. Mais après, tu vois, ce que je me demandais, Jakarta, ça commence aussi par un J, est-ce qu'ils peuvent quand même utiliser Jax RS en disant que c'est Jakarta? Parce que j'ai une incertitude là-dessus.
Non, mais alors, c'est assez curieux parce que, effectivement, cette partie-là était pas très claire pour moi non plus, mais ça concerne également, donc, tous les noms de spec et les acronymes existants. Donc, EJB, JPA, etc. C'est
tout ça. Alors non, je ne fais plus d'EJB, je fais des Jakarta Enterprise Beans, tu vas appeler ça comment?
Voilà.
C'est beaucoup de
Quel enfer.
Ouais.
Donc il y a Mike Milinkovic, hein, qui est le président de la fondation Eclipse, qui a partagé donc un article expliquant les différents points. Il y a eu des réactions assez intéressantes, par exemple côté Tommy Tribe ou aussi Mark Little de Red Hat. Donc on a rajouté ces liens d'ailleurs dans les show notes si vous voulez explorer un petit peu plus. Donc il y a différents points de vue, il y a pour ceux en tout cas qui ont regardé aussi sur Twitter, il y a des réactions très très vives anti Oracle et compagnie. Après il y en a qui voient ça de manière positive ou dans le sens enfin Tommy Tribe avait l'air d'être assez positive, et bah c'est l'occasion de vraiment de reprendre le contrôle et d'évoluer de manière plus ouverte finalement les spécifications, au lieu que ce soit géré par Oracle de main de fer. Là on redonne finalement à la communauté la capacité de faire évoluer ces standards. Donc il y a du bien, du mauvais, et moi j'imagine le refactoring de devoir changer partout Javax en Jakarta de partout, parce que ça va être
sympa. C'était d'ailleurs dans le point de vue de Tommy Tribe, en fait ce qu'il expliquait c'est que le fait que tu doives tout réécrire à partir du moment où tu veux faire évoluer ne serait-ce qu'une classe de l'aspect en question, ça fait qu'il va falloir le faire beaucoup plus vite que ce qu'ils avaient imaginé. Eux ils auraient aimé une migration un peu plus douce, et là il se dit que finalement il va falloir que ça se fasse de gré ou de force dans les 2 ans. Parce que sinon les projets ils sont morts, en fait ça veut dire que tu peux plus du tout les faire évoluer. Après effectivement côté Tommy Tribe ils étaient plutôt positifs en se disant il va falloir réécrire des parties qui génèrent du bytecode, mais c'est essentiellement ce que fait de toute façon une bonne partie des projets, donc c'est des choses qu'on sait faire et voilà. Ils comptent aussi sur le soutien de la fondation Apache, parce que c'est ce qu'ils disaient, c'est que les IDE ont fait énormément de progrès et t'accompagnent beaucoup maintenant, c'est vrai, dans la réécriture de code, et ils s'attendent à avoir du soutien des gens d'Apache et d'Eclipse pour sur la migration par exemple. Après, ce qui était intéressant dans le point de vue de Mark Little, justement, c'était que à un moment, il se posait la question de dire est-ce que l'investissement en vaut la peine, voilà. Est-ce qu'il faut faire tout ça juste après la sortie de Jakarta AI, ou est-ce qu'il faut le faire seulement quand c'est nécessaire? Et puis, est-ce que Jakarta AI est toujours le bon endroit pour faire ces évolutions? Ou est-ce qu'il faudrait pas déplacer des composants comme CDI ou JaxRS? Lui suggérait au sein de Eclipse Microfile, voilà.
Ouais.
Mais je trouve le questionnement intéressant. Il y a un vrai sujet qui apparaît là, à voir ce que...
En tout cas, il y a peut-être aussi un petit peu le côté, malgré tout, politique, parce que MicroProfile, c'est un peu plus Red Hat et Mark Little, plutôt que ce soit que la fondation Eclipse qui puisse gérer ça. Donc, toi, il y a peut-être aussi un petit jeu après politique de... Moi, je veux récupérer un peu pas le contrôle, mais en tout cas, avoir une influence plus grande... que si c'est juste Eclipse qui pourrait garder les choses en son sein mais pas être assez ouvert, tu vois.
Ouais, complètement, c'est possible, hein.
C'est risqué, enfin. C'est un challenge.
Et puis après, c'est de voir, donc c'est vrai que le d'un côté, moi j'aimerais bien genre un méga big bang et tout, et hop, on utilise Jakarta point de partout, mais en fait c'est là que tu te rends compte. Et Mark Little, il a écrit 2 posts, hein. Il y a celui qui est sur le blog de Red Hat et un plus personnel, on va dire, sur son blog perso. Et alors du coup, je sais plus sur lequel c'était, où il expliquait que tous les vendors qui ont ils n'ont pas tous la taille, hein, et donc le temps et le nombre de personnes à mettre en face pour pouvoir tout mettre à jour. Mais si on regarde sur l'ensemble de toutes les specs, il y en a quand même beaucoup. Et quand on est compliant, donc dans le sens où on a passé les TCK, parce qu'il y a aussi des aspects, hein, sur les histoires de TCK, de Test Compatibility Kit et de Reference Implementation. Une fois qu'on a... Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Pour les plus petits acteurs, ça aurait en tout cas un coût assez gigantesque de devoir tout réadapter. On se dit, c'est juste un changement de package, un bon coup de refactoring ou de search and replace, c'est bon. Mais en fait, il faut aussi que les implémentations repassent les TCK. Donc, enfin, ça paraît pas, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, en fait, quand on regarde Reference Implementation, TCK. Donc, il y a la version, si on touche pas une spec, faut continuer à passer le TCK d'Oracle. Mais par contre, si c'est les nouvelles specs au sein de Jakarta EE, c'est les TCK de Jakarta EE. Donc voilà, c'est pas trivial tout ça. C'est pas trivial.
D'où la question tout à fait pertinente de Marc de dire est-ce que ça en vaut la peine d'investir sur ça ou pas, ou est-ce qu'on recommence à zéro ailleurs.
Ouais.
Autant utiliser Spring, c'est très bien. Pardon.
Alors, c'est ouais non, pourquoi pas.
Profites-en mais... pas qu'ils sont pas là les deux autres.
Hein. Ils peuvent pas me taper dessus.
Après, non mais le truc aussi c'est que même des Spring vu toutes les specs qui sont utilisées dans et par Spring, ouais. C'est énorme aussi, ouais, hein, les refactoring à faire. Je sais plus, c'est pas Josh Long qui avait fait la stat là, qui a plusieurs milliers d'imports de Javax point quelque chose, ouais. Javax inject, etc.
Si, c'est énorme.
JPA et tout. C'est plusieurs milliers d'imports au travers de X projets, hein, parce que Spring c'est pas juste Spring Core et l'IOC, etc. Donc ça veut dire re-réaliser. Donc réaliser, hein, c'est-à-dire balancer sur Maven Central, retester, réannoncer, versionner, etc. Des tonnes et des tonnes de projets.
C'est l'enfer, puisque de toute façon après il faut, enfin en imaginant, enfin quoi qu'ils choisissent, mais s'ils ont des nouvelles API avec des nouveaux packages, si les classes restent les mêmes, on va se retrouver obligatoirement avec les classes pass, les doubles, les Javax versions versus les Jakarta. Ça va être l'enfer dans les imports, ça va être l'enfer dans les conflits, ça va être... Il y a plein de choses. On sait très bien que d'ailleurs Java est assez mal fichu à ce niveau-là. Quand on veut renommer des packages, déplacer des classes, des choses comme ça, enfin c'est vite l'enfer. Les modules Java, Jigsaw au final, il a pas vraiment fourni de solution, un petit peu avec les notions de visibilité, etc. Mais je pense pas que ça va résoudre tout le problème. Mais ouais, ça va être de toute façon très très compliqué là. Quoi qu'ils choisissent, si Javax inject, enfin Javax, pardon, Javax quoi que ce soit s'arrête, ça va être très très compliqué de toute façon la suite.
C'est clair. Et en tout cas, bah, je pense que ça va être le nouveau feuilleton de l'été, parce que donc là, on a les annonces, mais je pense que vous nous entendrez régulièrement revenir dessus. C'est pas comme Game of Thrones où c'est fini, là c'est le début d'un feuilleton.
Non, mais tu sais, ça fait un peu comme Netflix, c'est-à-dire que régulièrement, on lance de nouvelles séries avec des spin-offs d'autres séries et tout.
C'est ça. Exactement.
Bizarrement, Oracle est toujours un peu dans le coin.
Bizarrement.
Mais parce que il faut un grand vilain méchant. Et
ah, c'est ça, voilà. C'est eux qui font ce rôle-là. Ouais, je comprends mieux.
Ben ouais. Alors que tu vois, Red Hat, par exemple, ils se sont fait de la chirurgie esthétique. Là. Ils ont changé leur logo. Vous avez vu ça? Ils ont un nouveau chapeau.
Ouais, j'ai vu ça. Il n'y a plus le visage, en fait.
Il n'y a plus de cerveau, en fait. Exactement. En dessous. Il n'y a que le chapeau, maintenant.
Il n'y a plus que le chapeau.
Ça, c'est voilà, fait. Emmanuel, quand tu nous écouteras, on te fait des bisous.
Gros bisous.
Allez, on va passer aux librairies. Alors, un nouveau framework de log. Qui l'eût cru? ça faisait longtemps, quand même. Alors, un nouveau framework de log, et devinez par qui?
Je sais pas.
On se demande.
Par Google.
Bravo!
Alors aussi, il s'appelle Flogger. Et vous savez ce que ça veut dire en anglais, Flogger?
Fluent Logger. Ah non, ça c'est ce qu'ils ont voulu faire. Alors, mais je ne sais pas quelle. Non, je ne connais pas la définition.
Alors, fais une recherche dans Google Search images avec Flogger. Tu verras les trucs sympas qui vont sortir.
Oh, j'ai honte.
Pour les auditeurs.
Donc non, on ne traduira pas.
Faites pas la recherche. En fait, je viens de la faire. Ne la faites pas.
Not safe for work. Cherchez ça quand vous serez chez vous. Et je savais pas du tout ce que ça voulait dire.
Non plus.
Et quand j'ai cherché, c'est quoi ça? Je suis tombé sur quoi? Enfin bref. Bon, c'est assez original du coup comme nom. Mais alors, ce qu'il faut dire. Donc j'ai regardé quand même un petit peu. Ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est donc comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est une agrégation de Fluent et Logger, hein, le nom, d'où Flogger. Pour proposer une API Fluent au logger plutôt que enfin les bons vieux log info, log error, log machin chose, et qui soit un petit peu plus agréable à lire, mais qui a aussi d'autres avantages, dont par exemple faire en sorte que ce soit gratuit de vérifier ou non qu'un logger, un niveau de logging est activé ou non. Donc apparemment niveau performance, enfin quand on en est à mesurer des performances juste pour les log statements, c'est qu'on est vraiment en train d'optimiser tout jusqu'au dernier pouillem. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un logger plus rapide et de checker les conditions, savoir si le niveau est supporté ou pas. De pas aussi, il y avait les problèmes avec les toString, c'est-à-dire qu'on évalue quand même le message, même si on ne log pas, donc ce qui peut aussi avoir un coût. Ou par exemple, qu'est-ce qu'il y avait encore d'intéressant, c'était par rapport aux exceptions, je crois que ça avait, parce que les exceptions, quand on récupérait du coup les traces, on était obligé de remplir les exceptions avec Finin Stack Trace et qu'il y avait un coût, je crois que c'était lié ça. Et sinon, autre aspect intéressant, c'est que ça a l'air d'être assez extensif et on peut customiser aussi la manière de loguer. Donc par exemple, rajouter. Donc là, juste pour visuellement, vous l'avez pas sous les yeux, mais au lieu de faire log.error, on fera log at error, parenthèse, point with cause s'il y a une exception, point log. Mais on va pouvoir ajouter en intermédiaire, par exemple, point at info for user ID. Donc on va pouvoir rajouter nos propres noms de méthodes dans cette chaîne d'appel pour pouvoir avoir des choses où on a... on trace des informations plus facilement, on va dire, que simplement dans le texte qu'on met dans le message d'erreur. Et aussi, l'autre chose importante à regarder, c'est quand j'ai regardé le code que j'ai réalisé ça, en fait, c'est un nouveau framework en quelque sorte, mais il a l'air de se baser sur d'autres frameworks. Donc j'ai vu qu'il y a une implémentation, une sorte de bridge, ou je sais plus comment ils appellent ça, pour Log4j et pour SLF4j. Donc ça veut pas dire forcément que c'est un nouveau logger complet, mais plus une surcouche Fluent au-dessus des loggers qu'on a l'habitude d'utiliser. Ah oui, et il y avait un autre truc que j'avais vu, alors ça c'était pas dans l'article que j'ai mis dans les show notes, mais il y a des choses comme dans un certain laps de temps, plusieurs fois, enfin il peut y avoir 15 000 fois si c'est un service concurrent, imaginez des microservices qui sont appelés par 10 000 utilisateurs en parallèle, et la même exception arrive parce que je sais pas, il n'y a pas de circuit breaker et ça foire, il y a une exception qui est balancée parce qu'il y a un service qui est pas disponible. On peut aussi ne loguer qu'un certain nombre de fois dans un intervalle de temps. Donc il y a des petites choses assez fines, intéressantes, qui ont l'air d'être proposées par ce wrapper, cette surcouche. Et donc j'ai échangé avec Seki sur Twitter, qui est le papa de SLF4J. Et logback, et qui avait l'air de dire que ils ont l'air d'avoir fait des choses en tout cas intéressantes, et il va y avoir la nouvelle version des SLF4J aussi qui va être Fluent, qui va bientôt sortir. Donc ça a l'air d'être une tendance d'avoir des loggers Fluent.
Mais tout devient voilà. Fluent.
Et ouais, tout est Fluent. Qui... C'est ouais. Bon. Même nous, on devient Fluent en anglais, tout ça quoi.
Faut pas exagérer, en tout cas dans mon cas, on va oublier.
Et j'avais mentionné Circuit Breakers, qui pourrait faire une transition vers le point juste après.
C'est ça. Et en fait, c'est donc Spring qui annonce Spring Cloud Circuit Breaker. Donc, un Circuit Breaker, pour rappel, c'est une librairie en fait qui va vous aider à construire des services plus résilients à la panne en monitorant l'état de vos microservices. En résumé, très très rapide. Et là, Spring Cloud Circuit Breaker, c'est une abstraction qui va permettre aux développeurs d'utiliser le circuit breaker de leur choix. Donc actuellement, il y a Istrix, Resilience4j, Sentinel et Spring Retry qui sont supportés. On pourrait imaginer qu'il y en a d'autres, mais voilà.
Tip top. Et la sortie de J-Hipster 6.
Ouais. Alors, gros boulot sur cette version 6 qui était... On en avait déjà parlé, hein, parce qu'effectivement, il y avait une 5.8, je crois, récemment, mais qui était une version un peu mineure puisque là on attendait la 6. Sur la 6, il y a une migration de librairies, donc il y a énormément de librairies qui sont mises à jour. Il y a Spring Boot, Spring Security, Spring Cloud Greenwich, JUnit, Gradle, Liquibase, Elastic Cachebase, etc., etc.
etc.
Il y a le support du JDK 11, tout en gardant une compatibilité avec les versions depuis la 8. Il y a également le support de la dernière version d'Angular et de React, avec un ajout sur, il y a du lazy loading maintenant sur les entités Angular. Il y a le support de HTML5 push state. En fait, c'est l'aspect qui permet de modifier l'historique de navigation. Il y a également un meilleur support de Kubernetes avec des améliorations sur le côté Istio et Helm. Une amélioration de l'intégration de Sonar qui inclut maintenant un fichier sonar-project.properties externe, le support de Gatling 3, et puis d'autres petites choses comme par exemple l'utilisation de Prettier pour le formatting YAML, le packaging par défaut qui est maintenant en jar, mais vous pouvez continuer à faire du WAR si vous préférez, et le logging dans la console qui est maintenant au format JSON. Il y a aussi quelques fonctionnalités qui sont supprimées, l'installation via Homebrew et Chocolaté. Alors je connais pas de Chocolaté, je connais Homebrew, mais je connais pas ce deuxième outil. Bon, apparemment, l'équipe estimait que c'était pas une vraie plus-value, donc ils ont supprimé cette installation. Et ils ont également mis, alors, c'est pas vraiment supprimé, apparemment, c'est plutôt mis en stand-by, il y avait une devbox, et en fait, ils cherchent des mainteneurs pour la reprendre. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à leur faire signe.
Chocolaté, c'est le Homebrew pour Windows, hein, je crois.
Ah, bah, c'est pour ça que je connais pas.
C'est l'équivalent. Bah, ouais. Non, mais, ouais, j'en avais déjà entendu parler aussi, et je m'étais dit, enfin, j'avais dû regarder une fois, et dans ma tête, c'est l'équivalent. Enfin, j'ai pas, faudrait vérifier, mais je crois que c'est ça. Et côté middleware, on a aussi des nouvelles releases, middleware ou slash framework. Il y a Micronautes 1.1 qui est sorti.
Ouais. Avec donc en fait la 1.0 qui est probablement la release la plus importante du projet est sortie il y a peu de temps, et donc là c'est une version qui apporte quelques améliorations notamment dans le support de gRPC, de GraphQL, de GCP. Il y a aussi une fonctionnalité de message driven microservices qui s'appuie sur RabbitMQ. Il y a une nouvelle API Bean Introspection qui fait de l'introspection de Bean mais sans réflexion. Il y a le support de l'API Gateway d'AWS et du Custom Runtime de GraalVM, le support de AWS Alexa Lambda, des nouveaux templates de test pour Micronautes Test, et puis un démarrage à froid qui est encore plus rapide avec des performances optimisées. Donc, voilà.
C'est intéressant en tout cas de voir cette nouvelle tendance à la fois compilation binaire, on va dire, et aussi finalement de faire autant de choses que possible à la compilation plutôt que runtime. On essaie de fuir le runtime pour faire des choses à la compilation.
Tout à fait.
Que ce soit Quarkus ou Micronautes, bah c'est l'utilisation. On avait une discussion d'ailleurs, c'était sur les cascodeurs, notre mailing list. Il me semble qu'on l'avait eu cette discussion-là sur justement les annotation processors versus manipulation de bytecode, etc. Différentes approches pour en tout cas faire plus de travail au niveau de la compilation, mais faire en sorte que on ait un startup time. C'est vrai qu'avec les microservices, on essaie toujours de répondre le plus rapidement, etc. Et y compris à froid pour des fonctions, des lambdas, des choses comme ça. Et du coup, on voit cette tendance assez forte dans tout un tas de frameworks, librairies, stacks, etc.
C'est Mais d'ailleurs, ils en parlaient dans l'article de Trumitribe qu'on a cité au début. Tu vois, ils mentionnaient le fait que, bah, effectivement, avant, on n'avait pas les outils qui allaient bien et que maintenant, on peut tout à fait se le permettre et que Quarkus est un bon modèle dans ce sens de ce vers quoi il faudrait retourner.
Ouais. Et tu vois, ce qu'on avait fait nous par exemple côté, et c'est ce que utilise Micronautes quand on utilise Groovy, les transformations d'AST, c'est-à-dire tous ces améliorations librairies, etc., qu'on peut faire dans Groovy par exemple, on le faisait avec des transformations d'AST, ça se passe au niveau de la compilation. Donc c'est pareil, Groovy qui était à la base, à l'origine, un langage dynamique, mais maintenant qui est aussi un langage statique, enfin il a plusieurs facettes, et plus ça allait avec le temps, plus on allait vers des choses qui se passaient à la compilation, vu qu'on a une compilation qui est rapide, pour faire en sorte que on ait tous les avantages de choses dynamiques, comme la réflexion, l'introspection, etc., et tous les aspects dynamiques d'un langage aussi, de les avoir plutôt finalement à la compilation pour que ce soit rapide et pas un coût lorsqu'on lance son programme, mais que ce soit déjà pré-compilé comme il faut, quoi. Donc c'est super intéressant cette tendance, je trouve, qu'on voit apparaître partout dans les langages, les frameworks, les stacks divers et variés. Et en parlant de stack, oh, je sais pas si elle est terrible cette
quel
transition,
mais
il y a Elastic Stack. Je les ai travaillés pendant des heures et des heures, ou presque. Elastic Stack 7.0 released. Nouvelle
oui.
Version 7.
Voilà. Alors, avec, notamment Kibana, qui a un nouveau design, avec une navigation qui va être plus globale pour permettre de passer d'un projet à un autre. Kibana devient responsive et s'offre un petit thème dark parce que c'est la mode, n'est-ce pas? Tout le monde a besoin de son petit thème dark. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'était pas détaillé dans cet article, mais la refonte s'est faite en se basant sur Elastic UI Framework qui, a priori, de ce que j'en comprends, serait un framework de composants internes. Voilà, donc Component Everywhere. Et alors, il y a d'autres modifications. Hein. Il y a, par exemple, le layer de coordination du cluster qui s'appelait Zen Discovery, fait complètement peau neuve. Il devient Zen 2. Il va être plus rapide, plus sûr, plus facile. Il est plus zen. Il est plus facile à utiliser. Donc, il te rend plus zen également. C'est beau. Il est basé notamment sur un nouvel algorithme de consensus distribué qui va utiliser les formal models. Il y a aussi l'introduction d'un Real Memory Circuit Breaker pour empêcher un nœud de tomber à cause d'une requête qui va être trop grosse ou d'un excès de requête. Il y a également l'implémentation d'un nouvel algorithme dans Elastic 7 et dans Lucene 8.0, hein, puisque Elastic contribue énormément à Lucene. C'est l'algorithme Block Max Wand qui va permettre d'exécuter plus rapidement ce qu'on appelle une requête top K. Une requête top K, c'est une requête qui va renvoyer, par exemple, le top 10 des résultats sur une query. Ce qui, effectivement, en général, intéresse plus l'utilisateur que de savoir le nombre exact de résultats qui correspondent à sa requête. Il y a également les intervalles queries qui viennent remplacer les span queries. Un span queries, c'est ce qu'on faisait quand on recherchait deux termes avec un nombre exact de termes les séparant. Et là, les intervalles queries vont être plus faciles à utiliser, puis également plus résistantes au cas à la marge. Il y a les function score 2.0. Donc ça, c'est un truc qui est complètement essentiel. C'est une nouvelle génération de calcul de score de ranking. Parce qu'en général, quand on va manipuler comme ça des larges sets de données, on va rapidement avoir besoin de cette notion de ranking. Et donc là, Function Score 2.0 serait plus simple, plus modulaire et plus flexible. Il y a également l'introduction des Geotile Grid dans Elastic Map. Donc Elastic Map, c'est l'outil qui fournit la base map dans Kibana. Et Elastic avait récemment utilisé la structure BKD Tree pour améliorer les requêtes qui se basent sur des formes géométriques. Et donc là, ils l'ont étendu aux tuiles, pardon, de Elastic Map, et ça va permettre de zoomer dans et dehors sans que le résultat de la recherche soit modifié, ce qui n'était pas le cas avant. Et petit bonus, il y a même l'ajout d'une précision à la nanoseconde sur les timestamps maintenant pour les utilisateurs qui font de la haute fréquence, ce qui a été rendu possible par le passage de Joda Time à la Time API de Java 8. Voilà, donc encore du très très beau boulot du côté d'Elastic.
Yes. Passons maintenant au cloud. Et là, je vais refaire un petit peu de pub pour ma crèmerie à moi. Là, je bosse sur... Moi, je me focalise un petit peu plus sur tout ce qui est serverless comme produit là, chez Google Cloud. Et là, je suis assez content parce que on a bossé sur... donc, il y a Google App Engine version... enfin, à la sauce Java 11, donc là qui est en alpha, mais qui va très bientôt, dans quelques semaines, arriver en bêta. Et il y a aussi Java 8, par contre, sur Cloud Functions, qui vient d'entrer en alpha. Donc j'ai fait un article là sur mon blog, qui donne aussi les liens vers ces deux alphas. Donc si des gens ont envie de faire des apps sur App Engine, ou des fonctions en Java sur Cloud Functions, c'est pour ça que je fais mon auto-promotion, mon blog et tout, la totale quoi. Allez lire cet article et vous aurez les liens si vous voulez tester ça. Et je me suis aussi amusé évidemment à faire ça avec Groovy, pas que Java. Et c'est plutôt cool parce qu'une fonction, par exemple, bah, c'est juste un script avec une méthode qui est la fonction à exécuter. Donc c'est assez rigolo et succinct à faire. Sinon, GraalVM et Quarkus sont aussi dispo chez
Clever Cloud.
Clever Cloud.
Voilà, donc si vous voulez justement continuer à vous amuser en geekant, eh ben vous pouvez aller voir sur Clever Cloud. Il y a deux articles de blog qui vont vous expliquer comment jouer avec GraalVM et avec Quarkus sur Clever.
Et pour finir, le cloud en beauté, moi, je devrais pas la faire moi parce que c'est, on va dire c'est Google qui bâche Azure. C'est le ciel qui tombe sur la tête, non, c'est ça, des Gaulois. C'est Azure tombe pour quelques heures. Et pourquoi Azure est-il tombé quelques heures? Que s'est-il passé?
Eh bien, c'est un incident qui est arrivé pendant qu'ils migraient leur DNS Legacy vers un DNS Azure auto-hosté. Et il y a eu des updates de domaine pour les services Microsoft qui ont été corrompus, ce qui a malheureusement causé des problèmes de connexion pour les services comme Azure, mais également tous les services qui sont sous Microsoft 365, qui regroupent les offres Microsoft Office, mais pas que. Voilà, donc deux heures pas très très marrantes pour les gens de chez Microsoft, mais voilà.
Et sinon, j'ai vu passer aussi ce matin une petite news concernant, on a parlé tout à l'heure de J-Hipster.
Ah, je te vois venir.
On parle d'Azure, tu me vois venir. Notre ami Julien Dubois qui rejoint Azure.
En tant que DevRel, tout à fait.
En tant que DevRel.
Félicitations,
cool,
Julien.
Ça. Ouais. Et il y avait aussi mon ami Wassim qui a rejoint aussi... Microsoft, donc c'est cool, ça va être sympa. Après le cloud, et si nous parlions un petit peu de web, la sortie de Node.js 12.
Arnaud, je suis sûr que tu as envie de faire une blague sur le un petit peu. Fais-la, on se sentira tous mieux. Voilà.
Pour l'instant, j'ai pas dit grand-chose, donc c'est pour ça que je me permettrai pas du tout de commenter, mais effectivement, nous sommes partis. Tu peux prendre un café, Guillaume, une petite pause. Tu peux prendre ton déjeuner. C'est bon. On peut laisser Audrey gérer la partie web pendant une demi-heure.
Ça marche.
Non, c'est pas vrai parce qu'en plus, il y a pas que moi qui mets des news dessus.
En plus,
il y en
plus,
a
je
une,
crois
je
que...
l'ai pas mise. Donc, hein.
Oh là là.
En plus, il me semble que c'est moi qui l'ai rajouté nos JS 12
ouais,
hein,
je pense.
Dans la liste. Donc.
Tu veux en parler ou?
Eh ben, écoute, si tu veux, tu rajouteras partout où il manque des trous, mais bon. Je l'avais mis. Bah, moi, je joue un petit peu avec, hein, parce que sur Cloud Functions, là, sur Google, justement, avant, alors maintenant, il y a plein de langages, mais avant, il y avait que Node.js. Donc, c'est comme ça que je m'étais mis à faire du Node.js, moi, faire du Node.js. Eh ben, ouais. Eh ben, dans Node 12, donc, il y a une upgrade de V8. Donc le moteur qui fait tourner tout ça passe dans la toute dernière version. Donc il y a des différents bénéfices à ça. Par exemple pour les stack trace, quand on fait du async await, c'est beaucoup plus rapide quand il y a des problèmes d'appel avec des mauvais arguments. Await, enfin du coup c'est lié aussi avec peut-être aussi les traces et toutes les améliorations qu'ils ont fait là-dessus, mais le wait est aussi plus rapide. Donc ne serait-ce que l'upgrade à V8 fait que Node.js 12 va être plus rapide. Il y a aussi l'utilisation de TLS 1.3, alors qu'avant c'était que 1.2 je pense.
Ouais. Et si vous voulez plus d'infos sur un TLS 1.3, on en avait parlé dans l'épisode 186. Donc vous pouvez retrouver les détails, mais c'est une version qui est compatible avec TLS.
Tu t'en rappelles de mémoire que
non,
c'était le 186.
Non, je vais les rechercher quand c'est comme ça.
Ah ouf. Parce que en fait, elle a la table of content, la table des matières de tous les épisodes en tête. Elle est forte là, quand même.
Non, pas à ce point-là.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut configurer. Alors attends, hop, je l'ai sous les yeux. On peut configurer. Proprement, je sais pas pourquoi ils ont dit proprement dans la release notes, mais des limites de taille de HEP.
Alors c'est proprement ouais. Parce qu'en fait avant c'était ça se basait sur les valeurs par défaut utilisées par V8 pour les navigateurs.
Ah d'accord. Genre là t'as des flags où tu peux vraiment laisser tes quoi, c'est ça?
Bah là en fait c'est que par défaut ils vont utiliser la mémoire disponible.
Ah d'accord, ok.
Donc ça permet d'être sûr que Node va pas utiliser plus de mémoire qu'il y en a de disponible, même si si jamais ça ne correspond pas à vos besoins d'utilisation, il sera toujours possible de setter un max hold space size.
D'accord.
Qui vient surcharger le défaut, mais voilà.
D'accord. Sinon, il y a aussi un nouveau parseur HTTP. Avant, il était donc il s'appelle LLHTTP. Il était introduit en expérimental dans Node 11, mais donc là, on a un nouveau parseur a priori plus efficace et plus rapide, j'imagine. Pour faire des modules natifs, ça devient encore plus facile. En tout cas, apparemment, le travail est pas fini parce qu'ils mettent que le progrès continue, les améliorations continuent.
Mais maintenant, il y a le support des worker threads et des NAPI, ce qui est particulièrement pratique si vous voulez faire des appels asynchrones. Voilà. Donc, ça continue à évoluer.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des reports diagnostic, donc ça c'est j'imagine pour savoir où est-ce qu'on en est au niveau de l'utilisation mémoire, des crashs, des memory leaks, des choses comme ça.
C'est exactement ça, c'est pour générer à la demande un rapport ou s'il y a certains problèmes qui arrivent. Voilà.
D'accord. Vous avez les dumps du HEP pour savoir ce qui se passe quand vous avez des problèmes, que vous voulez investiguer les problèmes d'utilisation mémoire. Les améliorations d'amélioration de vitesse de démarrage, alors ne serait-ce que avec le passage à V8, avec une version plus rapide de V8, ça a certainement un gros impact dessus. Le support des modules version ES6. Alors moi je m'y perds dans tous les différents types de modules qu'ils ont. Déjà quand Java avec le JPMS, on a qu'un seul type de module, mais c'est déjà chaud. En JavaScript, on a plusieurs modules. Alors bon, entre Require, ES6 et compagnie.
Bah, puis là, c'est un support expérimental en plus. Donc,
Là, il est expérimental.
Ouais.
Ah, oui. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nouveau compilateur et enfin des nouveaux niveaux minimum de compilateur et de plateforme. Donc là, je pense que c'est plus pour Pharmaxi, non, ça a une importance justement sur en fonction de quel OS vous allez utiliser en dessous.
Ouais.
Donc par exemple pour il faut un certain niveau de glibc qui va bien, etc. J'ai pas regardé après les versions des OS par exemple pour Red Hat et CentOS faut une version 7, etc. Donc faut regarder en fonction un petit peu des versions que vous avez de vos OS en dessous. Et puis voilà.
Et il y a juste un truc que je rajouterais, il y a les worker threads, donc c'est les modules pour faire du multithreading, qui sortent du mode expérimental. Donc il n'y a plus besoin de flags pour les utiliser. En revanche, l'équipe aimerait beaucoup avoir du feedback dessus. Donc n'hésitez pas à leur en faire si vous les utilisez.
Passons, alors est-ce que c'est plus Svelte que Node? Je ne sais pas. Passons à Svelte 3. Déjà, qu'est-ce que c'est?
Donc c'est un framework de composants comme React ou Vue, mais avec une grosse différence, c'est que dans Vue ou dans React, par exemple, on va écrire du code déclaratif et ce qu'on appelle state-driven, qui va imposer au navigateur de convertir ce code en opération dans le DOM, et ça a un coût sur les performances. Svelte fait le choix de convertir au runtime les composants en code impératif qui va lui venir mettre à jour ce qu'ils appellent de manière chirurgicale le DOM. Alors avec cette nouvelle version, on va pouvoir écrire des composants avec beaucoup beaucoup moins de boilerplate que les frameworks concurrents. Bon, ça c'est leur promesse. L'API a changé, mais également les composants. Bon, alors ils n'ont pas fait le choix d'utiliser des hooks pour les changements de state, mais il y a une modification entre la V2 et la V3. Donc si vous utilisez Svelte et que vous vous en serviez, je vous conseille d'aller jeter un œil. Ce qui fait que la migration depuis la V2 demande un petit peu de travail, mais ils ont normalement, je pense, depuis qu'ils l'ont publié, ils prévoyaient de publier un kit d'upgrade, et ils ont un outil qui s'appelle Svelte Upgrade qui va permettre de migrer les templates V2 en V3. Et puis ils ont encore plein de projets en cours. Donc par exemple, il y a le projet Svelte Native qui doit permettre d'écrire des apps natives Android ou iOS sur lequel ils travaillent, ils voudraient aussi avoir un vrai support pour TypeScript, et puis Sapper. Alors Sapper, c'est un framework pour web app qui est basé sur Next.js, qui doit
c'est
encore
pour être... les pompiers.
Voilà. qui doit encore être mis à jour pour utiliser Svelte 3.
Par contre, comme moi je suis un expert du web, je tiens quand même à te corriger, en tout bien tout honneur, avec sans flogger nécessairement. En fait,
de préférence,
et justement,
oui. ça va pas le perdre.
Et justement, par rapport aux tendances dont on parlait en début d'épisode, où on fait de plus en plus de choses à la compilation, enfin au build time plutôt qu'au runtime justement, tu as dit que les updates chirurgicales là, du DOM se faisaient au runtime, mais non, justement c'est au build time, et ce qui est une des grandes différences avec React et Vue, où justement c'est pas au runtime avec Shadow DOM et compagnie, mais c'est justement au moment du build des composants où ils savent exactement quels sont les éléments du DOM à modifier, ce qui fait qu'au runtime, c'est pour ça qu'il peut au runtime ne modifier que ce qu'il faut. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est calculé au build time, donc à la fin, compilation et build, quoi.
Tout à fait.
Et ce qui est, encore une fois, tu vois, dans cette tendance d'essayer de faire que ça démarre encore plus rapidement, que c'est encore plus succinct, plus léger à charger, etc. Parce qu'on fait de plus en plus de choses, voilà, au build ou à la compilation. Et même, tu vois, côté front-end, eh ben, ils font pareil. C'est top, ça.
Mais c'est voilà, j'adore. C'est l'avenir. Mais je te remercie de
pour une fois que je peux corriger Audrey sur un truc sur du front. Attends, hey, ah, des fois, je le fais, quoi.
Tu sais, des fois on wow. s'en aperçoit au mix, mais on s'est mélangé de mots. Et bon bah c'est trop tard pour rattraper, donc c'est bien que tu l'aies, que je te remercie
yes.
d'avoir
ouais, achievement unlocked. Mais j'ai découvert Svelte la semaine dernière. Je savais pas que ça existait avant, alors bon.
Ben moi j'en avais entendu parler. Après, pour être tout à fait transparente, j'ai pas encore eu le temps de l'essayer. Hein, donc voilà, je tenais à en parler parce que j'aime bien donner un aperçu de tout ce qui se passe dans l'écosystème et pas seulement des outils que je connais. Mais effectivement, moi j'ai pas encore eu le temps de tester.
Yes.
Donc voilà, c'est pour ça que je reste prudente sur les assertions quant à c'est plus performant que les copains, il y aura moins de boilerplate, tout ça, puisque je ne sais pas ce qu'il en est en vrai.
Yes.
Et on peut passer au Native Image Lazy Loading for the Web. Alors en fait, les balises IMG et iframe auront bientôt un nouvel attribut, un attribut loading qui va pouvoir prendre plusieurs valeurs. Les valeurs lazy, eager ou auto. Donc pour faire soit du lazy loading, soit du eager loading ou auto, où là on va laisser au navigateur en fait le soin de décider quand est-ce qu'il télécharge l'image. Donc c'est quelque chose qu'on faisait habituellement en utilisant une librairie externe un même type lazy size, ce qui permettait de différer le chargement de certaines images au moment où l'utilisateur va scroller dessus. Et avec ce nouvel attribut, on va pouvoir le faire nativement. Alors comme il ne sera pas supporté par tous les navigateurs, il est recommandé de déclarer l'attribut data SRC pour que justement les vieux navigateurs ne fassent pas un chargement agressif de toutes les images, et plutôt de venir en JavaScript détecter le support ou pas de cet attribut dans le navigateur et de remplacer l'attribut data SRC par l'attribut SRC dans l'HTML s'il est supporté. C'est un attribut qui est déjà dispo dans Chrome, mais il vaudrait mieux attendre qu'il passe en release state avant de l'utiliser en prod. Et par exemple, dans le cas de Chrome, bah, le loading il est déterminé en fonction de la proximité du scroll de l'utilisateur, mais aussi de la qualité de la connexion. Parce que bon, bah, voilà, ça reste un attribut web, donc les implémentations dans les navigateurs ne seront pas exactement identiques. Donc il faudra voir comment Firefox et Safari le gèrent.
D'accord. Et en parlant de navigateur, Firefox, il y a eu du bruit là récemment hein, sur les add-ons.
Oui, alors Firefox a eu des petits soucis le 3 mai. Il y a il y a une issue qui est apparue qui empêchait d'exécuter ou d'installer des add-ons qui soient nouveaux ou déjà installés existants. Il y a un fixe qui a été déployé. Alors il y a plusieurs fixes en fait qui ont été déployés durant le week-end pour d'abord corriger la version pour les utilisateurs desktop sur les versions release, beta, nightly. Et puis là hier soir, je pense, enfin pour nous l'équivalent d'hier soir, ils ont déployé un fixe pour les versions Extended Support, qui est la version utilisée par les gens qui font de l'installation dans les entreprises quand ils gèrent tout un parc, ou pour Firefox pour Android. Donc le fixe il est automatiquement appliqué en fond, il n'y a rien à faire pour que les add-ons fonctionnent à nouveau, et en particulier ils insistaient sur le fait qu'il faut pas supprimer et réinstaller les add-ons en question, parce qu'en fait vous allez supprimer les datas qui sont associées. Et pour fournir le fixe aussi rapidement que possible, Firefox s'appuie sur Studies, qui est activé par défaut. Donc vous n'avez rien à faire pour qu'il soit déployé, sauf si vous avez désactivé Studies. Alors tout n'est pas encore fixé, mais les équipes sont dessus et bah il faut patienter un petit peu. Et puis au cas où, puisque certaines personnes relevaient qu'elles n'avaient pas le fixe disponible, il y a un lien pour forcer la mise à jour vers la dernière version qu'on vous a rajoutée dans les show notes.
Yes. Et qui essaie de tuer Internet Explorer ?
Non, alors juste tout Internet Explorer 6, parce que Microsoft a déjà tué Internet Explorer. Alors ça, c'est une histoire, ça m'a beaucoup fait rire. C'est le récit d'un ancien développeur de YouTube sur comment ils ont conspiré pour supprimer IE 6 de leur base d'utilisateurs. Donc c'est une histoire qui s'est passée pas longtemps après le rachat par Google, mais avant l'intégration complète de YouTube dans Google. Et l'équipe venait de passer un temps certain à faire des fixes juste pour IE 6, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils livraient un truc, il y avait 2 semaines de fixes sur IE 6, ils en pouvaient plus. Et donc ils ont imaginé comment s'en débarrasser, en se disant qu'il faisait quand même partie des rares sociétés qui pouvaient se permettre d'avoir un impact là-dessus. Alors, il y a un truc un peu rigolo, c'est que pour asseoir leur autorité sur la codebase YouTube pendant le rachat, les développeurs les plus anciens avaient défini un accès, ce qu'ils appellent « all tuber », au repository. Et ça permettait de bypasser tous les process Google, et donc tu pouvais pusher avec juste une petite code review. Et il n'y avait pas besoin de tests, de code coverage, de documentation ou autre.
C'est has-been, les tests, tout ça.
Ouais. Et à ce moment-là, ces devs-là avaient déjà quitté les équipes, mais ils ont adoubé des développeurs plus jeunes, mais qui faisaient quand même partie de l'équipe YouTube, qui était rentrée avant le rachat. Et ces développeurs ont décidé de mettre une bannière qui s'affichait que quand on naviguait sur YouTube sous IE6 et qui indiquait... Alors, le message était un peu flou volontairement, il donnait pas de date précise, etc. Mais la bannière indiquait que le support pour ce navigateur allait bientôt s'arrêter avec des liens pour télécharger Chrome ou Firefox ou IE8. Et c'est rigolo parce que donc la bannière, elle était vraiment en termes techniques, elle était aussi simple que possible pour que personne ne la remarque pendant la phase de staging. Donc, ils ont même été jusqu'à avoir le texte en plusieurs langues pour qu'il n'y ait pas de traducteur de contenu qui lève l'alerte sur ce bout du code. Et le truc est parti en prod. Et là, c'est le PR Team Lead. Alors, tu m'arrêtes, Guillaume, si je dis une bêtise, mais je pense que c'est Public Relations Team Lead. Qui est venu en premier demander pourquoi tous les sites de NewsTech lui écrivaient pour lui dire « Mais pourquoi le deuxième site internet au monde, il menace de couper l'accès à 1/5 de ses utilisateurs ?»
Oups.
Donc ça aurait pu très mal se passer pour l'équipe, mais heureusement, les médias avaient déjà tourné l'histoire à l'avantage de l'équipe en expliquant que c'était pour le bien de tout le monde, hein, pour le bien de l'internet. Et alors après, c'est les avocats qui sont venus, qui étaient complètement en panique parce que Chrome était en premier dans la liste, et ils ont dit « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» Et les développeurs leur ont répondu « Mais pas du tout, en fait, ils affichaient les 3 navigateurs dans un ordre aléatoire, ils conservaient l'ordre dans un cookie pour éviter qu'ils changent sur le poste d'un même utilisateur, et bon, il s'avérait que les personnes qui s'étaient rendues compte du problème au service légal avaient tous les 3 eu Chrome en premier, mais que voilà, ils leur montraient par A plus B que c'était aléatoire, et donc là, ils sont repartis tout rassurés, parce qu'en fait, ils avaient peur que l'UE s'énerve un peu plus après Google, c'était le moment où l'UE déjà reprochait à Google sa situation de monopole. Et donc, là, ils se disaient, on va se faire défoncer les prochains à venir, c'est les managers engineering. Et puis non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour d'après, c'était d'autres ingénieurs qui s'arrêtaient pour les féliciter une fois qu'ils avaient lu les articles dans la presse tech. Alors au bout d'un moment, quand même, ils en ont parlé avec les engineering managers, ils en parlaient un, ils leur ont demandé si ça avait pas posé de problème, enfin leur avis sur la question. Et l'engineering manager a répondu, j'ai cru que vous aviez copié la bannière de Google Docs. Et comme plus tard, le gars qui raconte cette histoire a été amené à bosser avec des gens de l'équipe Google Docs, il leur a demandé pourquoi il l'avait fait, et la personne leur expliquait qu'il voulait déprécier IE6 depuis longtemps, mais que les managers les laissaient pas faire. Alors quand ils ont vu la bannière sur YouTube, ils se sont dit que l'équipe avait obtenu toutes les autorisations nécessaires, et ils ont décidé de faire de même. Et donc la première fois que la plupart des Googlers ont entendu parler de l'existence de la dite bannière, c'était dans des threads de mail entre équipes qui demandaient s'ils pouvaient eux aussi arrêter de supporter IE6. Ce qui fait que Google a fini par donner son accord aux autres équipes et en un mois la base d'utilisateurs IE6 avait diminué de moitié sur YouTube.
Il y a un graphe là qui est énorme.
Ouais.
Le graphe il est énorme là, tu vois, dès le moment, donc c'est un graphe là dans l'article qu'on a mis où tu vois l'utilisation d'Internet Explorer de Microsoft Edge au cours du temps, et il y a mais vraiment une chute mais phénoménale juste quand ils ont mis cette bannière en place, et malgré tout le passage aussi à Internet Explorer 8 qui a décollé en flèche quoi. Donc c'est marrant comme l'influence d'un seul site avec tellement de visiteurs que...
Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, je pense qu'ils ont même rendu service aux gens de chez Microsoft. Parce que même de chez Microsoft savaient plus comment s'en sortir de ce truc à un moment, tu vois. Donc c'est ça qui est rigolo. Ouais. Voilà.
Parce qu'il y avait le site, là, à un moment, arrêté IE6, qui était fait par Microsoft eux-mêmes.
Ouais.
Donc, voilà. Allez, on va passer à l'outillage.
Oui.
Avec le développement remote avec Visual Studio Code. Vu qu'on parle de Microsoft, on peut continuer avec du Microsoft.
Tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'adoption qui est de plus en plus grandissante de Visual Studio Code, bah, Microsoft s'est retrouvé confronté à de plus en plus de développeurs qui voulaient, qui travaillaient sur du code qui tourne dans des containers ou dans des VM remote avec des configs bien particulières parce que, bah, tout simplement, au mieux, c'est trop compliqué à faire tourner en local et au pire, c'est complètement impossible. Et donc là, il y a trois nouvelles extensions qui font leur apparition, pardon, et qui vont permettre de se brancher à un container, à une VM. Et avec le Windows Subsystem for Linux, alors ça, je connaissais pas, apparemment, ça permet de runner un environnement GNU Linux et la plupart des outils en ligne de commande et des applications directement sur Windows, sans le surcoût d'une machine virtuelle.
Mais c'est cool, ça. J'aime bien Visual Studio Code.
Ouais, j'aime beaucoup aussi. Ouais.
En tout cas, quand je fais pas du Java dans IntelliJ, j'utilise Visual Studio Code.
Donc. Je crois qu'on est pas mal à faire ça.
Ouais.
Oh, j'ai toujours du mal, moi, perso, à passer dessus. Je m'y habitue pas. Il est très bien, hein. J'ai rien à dire contre. Il est très bien. C'est juste que c'est l'habitude. J'ouvre un TextMate, parce que juste l'habitude.
Ouais. Par contre, je suis quand même moins, parce que dans IntelliJ, je connais genre tous les raccourcis clavier par cœur. Dans Visual Studio Code, je suis pas à ce niveau-là, quoi. Même si je l'aime bien, tu vois, je le maîtrise pas autant.
Non, mais c'est pareil.
Malgré tout. Et tiens, si on passe à l'architecture et enfin, vous n'êtes pas, c'est le titre qui veut ça, même si moi je travaille chez Google. You are not Google. Vous n'êtes pas Google.
Mais toi non plus, tu travailles chez Google, mais tu n'es pas Google, heureusement.
C'est vrai. Je ne suis pas Google à moi tout seul.
Tu serais un être humain très bizarre si tu étais Google à toi.
Yes.
Et en fait, c'est You are not Google, ni Amazon, ni LinkedIn, etc. C'est un article qui revient sur le cargo culte et le travers qu'on a assez souvent à choisir une solution parce qu'elle est à la mode plutôt que parce que c'est la plus adaptée. Et sur le fait que imiter les géants sans comprendre les problématiques qu'ils ont rencontrées lorsqu'ils ont développé ces solutions. Alors, ils parlent notamment de MapReduce pour Google, de Kafka pour LinkedIn ou Dynamo pour Amazon, qui ensuite a inspiré Cassandra. Ça risque de vous amener plus de problèmes que de solutions. Là, l'auteur prenait l'exemple d'un client à lui qui voulait tout réécrire pour se plugger sur du Cassandra parce que sa requête Postgre prenait plusieurs minutes. Et puis, en fait, en posant quelques questions, il s'avère que la table, elle faisait 50 millions de lignes, hein, donc que les optimisations à faire, elles étaient plutôt dans le tuning de Postgre, voire éventuellement dans le hardware, que dans la réécriture complète d'une partie du soft. Et donc, la solution qu'il propose, c'est UnFAT. Alors, bon, ça fonctionne quand vous êtes en anglais, mais on va vous la résumer en français. C'est assurez-vous que vous avez compris le problème avant d'envisager la solution. Énumérez les solutions candidates. Pour chacune d'elles, allez lire les papiers de recherche sur le sujet s'il y en a. Reliez à chaque fois la solution au contexte historique dans lequel elle a été développée. Pesez les pour et les contre par rapport à votre projet. Et puis surtout, réfléchissez sobrement et humblement. Voilà. Et je pense que c'est un petit rappel qu'il faut qu'on se fasse tous régulièrement.
De temps en temps, ouais. Non, ça mérite bien d'être dit et pensé. Côté méthodo, est-ce que les projets ont vraiment besoin de héros?
Bah, il semblerait que oui. Hein.
Non. De super-héros ou pas? Est-ce que c'est parce qu'il y a Avengers Endgame qu'on est obligé de passer aux super-héros ou quoi?
Ben non, en fait, c'est que... Alors, un hero project, c'est un projet où 80% des commits sont faits par 20% des committeurs. Et en théorie, c'est le mal absolu parce que ça peut créer des engorgements dans le développement du projet. Sauf que ce sont les projets majoritaires sur GitHub et que les études ont prouvé que le code qui était développé par ces 20% de gens résultait en moins de bugs que celui des autres. Et donc, conclusion, les héros sont nécessaires.
C'est vrai que c'est marrant, mais enfin, dans les différents projets sur lesquels j'ai bossé en open source, si tu veux, c'est vrai que t'as quand même toujours les poignées de quelques développeurs qui vont contribuer un max et faire du super code et tout quoi. Alors c'est un peu anecdotique parce que je fais pas des stats sur 1000 projets quoi, mais c'est vrai qu'on voit ça quand même assez souvent. Enfin en tout cas surtout dans l'open source après, j'ai l'impression que c'est quand même moins le cas dans les projets d'entreprise où c'est plus partagé.
Oui, mais dans les projets d'entreprise, c'est parce que tu as moins de committeurs. En fait, moi, le chiffre surprend pas parce que tu vas avoir une base de committeurs sur un projet open source qui n'est pas du tout la même que sur un projet privé. Et donc, il est normal et pas choquant du tout que tu aies qu'une petite partie des gens qui soient plus investis sur le projet, qui connaissent mieux le projet et qui font moins de bugs. Ça me surprend pas, tu vois. Pour moi, c'est pas tant un témoin de peut-être d'une moindre qualité du code des autres. C'est juste que c'est les gens qui passent le plus de temps sur la code base. C'est normal qu'ils la connaissent à fond, tu vois.
Ouais, fatalement. C'est vrai. Effectivement, sécurité. Le hub, le Docker hub, a été non pas attaqué, mais en tout cas faille de sécurité et le risque sur les images.
Ouais.
Que s'est-il passé?
Bah alors, il a quand même été attaqué puisque il y a un hacker qui a eu accès à 190 000 username, password et access token GitHub.
Oh,
et
une paille.
Alors oui, c'est une paille parce que c'est 5% des utilisateurs. Sauf que alors, ça paraît ridicule, mais en fait, la plupart ont des accès entreprises. Ils peuvent auto-builder des conteneurs qui sont déployés en prod. Et donc, maintenant, ces conteneurs peuvent éventuellement inclure des malwares.
Ben, c'est bien, c'est continuous delivery, tout ça, c'est top, non?
C'est ça, c'est continuous delivery jusqu'au bout. Il n'y a pas eu de détails sur le problème pour le moment. C'est juste que tous les utilisateurs avec auto-build ont vu leurs accès GitHub et Bitbucket révoqués. Voilà. On attend d'en savoir plus, mais donc ça craint. Et c'est tout la faute de Guillaume l'ours, hein. Il me l'a avoué, il a modifié un readme, je sais que c'est lui. Hein.
Comment c'est elle vrai. Est, il va t'écouter, il va te haïr, il va te punir.
Ça fait un peu vengeance
personnelle. Mais comme
ça,
il sait que je l'aime. C'est parce qu'il me manque, voilà, je peux plus l'embêter tous les jours, alors il faut que je l'embête quand je peux.
L'amour vache, c'est ça. Après la sécurité, la loi, société et organisation. Que s'est-il passé?
Alors, on va commencer par un rectificatif de l'épisode 208, puisque dans l'épisode 208, on avait évoqué la bataille qui s'engage entre Elastic et AWS, et Arnaud et moi avions commis quelques erreurs, voire imprécisions. Et Fabien Baligan, qui est un ancien collègue à moi et qui est un contributeur Elastic, m'a gentiment fait un mail pour me justement repréciser plein de points, et je lui ai posé des questions, et il m'a apporté encore plus de réponses. Et donc, on va commencer par corriger déjà ce qui était faux dans l'épisode précédent. Donc avant la version 6.3, il y avait effectivement un plugin XPack commercial, que l'on pouvait installer ou pas. Et dans des repos différents, il y avait les projets qui étaient complètement free et open source, Logstash, Elasticsearch et Kibana. À partir de la version 6.3, les fonctionnalités XPack ont été ouvertes sur GitHub. Donc ça veut dire qu'on peut lire le code, on peut le télécharger, on peut ouvrir des issues dessus, on peut même y contribuer via des PR. Ce qui fait que concrètement, XPack n'est plus un plugin à part, mais ça devient un répertoire XPack dans chacun des projets, Logstash, Elasticsearch et Kibana. Et tout ce qui est dans ce répertoire est sous licence commerciale Elastic. C'est une licence qui a été particulièrement pensée pour empêcher Amazon de s'en servir et de le revendre, comme l'ont fait Reddit, comme l'ont fait Mongo, etc. Et ça veut donc dire que, désormais, dans le même repo Git, tu as une partie du code qui est sous licence Apache 2.0 et une autre partie qui est sous licence Elastic. Et sachant que XPack est découpé en trois groupes de fonctionnalités qui correspondent à des offres, il y a l'offre basique qui est gratuite d'usage, sauf si tu revends la fonctionnalité en tant que cloud provider, l'offre Gold qui est payante, Platinum qui est payante mais un peu plus chère. L'offre Elastic Cloud, donc l'offre propriétaire, disons, d'Elastic, qui est hébergée sur Amazon, hein, par ailleurs, fournit bien l'intégralité des fonctionnalités XPack, plus quelques autres, et elle fournit toutes les versions d'Elastic Stack, y compris la dernière, le jour même de sa sortie. Ce qui n'est pas le cas de l'offre cloud qui est fournie par Amazon lui-même. Et donc c'est la raison pour laquelle l'offre Amazon d'Elasticsearch ne fournit pas les fonctionnalités XPack. Et c'est donc bien évidemment la raison pour laquelle ils ont créé OpenDistro for Elasticsearch, c'est pour pouvoir ajouter en open source des fonctionnalités qui soient similaires à XPack. Autre changement qui est apparu à partir de la version 6.3, c'est que la distribution par défaut à télécharger contient XPack, avec une licence incluse d'utilisation infinie sans limite de temps des fonctionnalités gratuites. Donc on peut tout de même télécharger la version qui est free et open source à côté, mais c'est plus la distribution par défaut. Et donc si on cumule le fait que la distribution par défaut inclut XPack, que c'est plus un plugin, qui a des fonctionnalités gratuites mais pas dans tous les cas et payantes dans XPack, et surtout que le code de XPack se retrouve dans le même repo Git que les produits Elastic Stack qui sont full open source et sous une licence différente, effectivement, Amazon n'a pas tout à fait tort en disant que c'est assez confus de s'y retrouver entre ce qui est gratuit et payant. Après, voilà, Fabien me disait, le fait qu'Amazon fournisse en open source Apache 2.0 une partie des fonctionnalités payantes d'Elastic, pas toutes, mais les plus utiles comme la sécurité et l'alerting, c'est quand même sympa, parce que beaucoup d'utilisateurs d'Elasticsearch apprécieront. Néanmoins, ils n'ont rien inventé, parce que bien avant qu'OpenDistro ne sorte, il existait déjà des plugins open source qui fournissaient la sécurité, donc il y avait Read Only Rest et SearchGuard, et l'alerting avec Sentinel et ElastAlert. Voilà, donc ça c'était pour le petit rectificatif. Et ça nous emmène directement sur l'article d'après, que tu as fort bien résumé. C'est toi, Guillaume, non, qui avait fait un résumé du titre de l'article
Non, je crois pas.
Le titre dans les show notes, c'est AWS, il regarde si tu as du succès, et pouf, il te bouffe.
Ouais, non, c'est pas moi.
Qui est plus facile que, effectivement... Alors, le titre original de l'article, c'est « Amazon has gone from neutral platform to cutthroat competitor », c'est Open Source Developers. C'est un article qui revient sur cette bataille Elastic AWS, qui a fait énormément de bruit, qui rappelle donc que les changements de licence d'Elastic, bah, ils ont été amenés initialement par l'intégration du code et des fonctionnalités search d'Elastic dans la suite de services computing d'Elastic. Et donc, autant leur position critique sur le manque de transparence entre ce qui est open source et ce qui est sous licence Elastic est complètement défendable, mais alors autant la position d'Amazon en militant de l'open source a pas mal fait rire les personnes averties, parce qu'Amazon n'est pas du tout connu pour être un gros contributeur open source, comparativement à tous les autres acteurs, c'est assez ridicule. Bon alors l'article est assez long, il revient en détail un petit peu sur tous les épisodes, notamment ce qui a pu se passer avec Reddit, avec MongoDB, etc., avec Confluent également, avec Kafka, et il explique bien que bah, Amazon va toucher au talon d'Achille de l'open source en s'appropriant le travail des autres et en faisant des bénéfices sur l'accès à celui-ci. Et une chose qui était particulièrement intéressante dans cet article, c'est... alors, Amazon est déjà dans le viseur des démocrates américains. Elizabeth Warren, qui est la nouvelle présidente du Sénat, qui a été récemment élue, a récemment visé Amazon pour son comportement qui est assez anti-compétitif sur sa plateforme de e-commerce. C'est-à-dire qu'elle explique bah, tu peux pas à la fois avoir une équipe sur le terrain et être arbitre. Ce qui est de fait le comportement d'Amazon, puisqu'on sait que sur la partie e-commerce. En fait, ils vont permettre à des revendeurs de mettre leurs produits à disposition, ils vont surveiller les ventes des produits et ils vont éjecter le revendeur sur un... Quand ils voient un secteur qui marche bien, ils éjectent le revendeur et ils installent leurs propres produits à la place. C'est un tel point que les retailers américains ne veulent pas, veulent plus travailler avec AWS. AWS est complètement proéminent sur le marché du cloud, mais il y a des sociétés. Donc c'est un point où c'est plus rapide de se lister les sociétés qui ne veulent pas utiliser AWS que celles qui s'en servent. Et dans celles qui ne veulent pas utiliser AWS, bah, il y a Walmart, il y a Target, Gap, Kroger. C'est des retailers qui eux peuvent pas prendre le risque de mettre leurs données à dispo d'AWS s'ils veulent survivre. C'est-à-dire qu'on est passé d'une position où ce qui aurait pu être un partenaire devient même plus un concurrent, mais un prédateur. Et donc Walmart, par exemple, va jusqu'à demander à ses partenaires de ne pas utiliser AWS non plus. Et là où c'est intéressant, c'est que l'auteur de l'article disait que cette tactique, en fait, Amazon l'applique également à AWS. Et donc, ils ont cette tendance à regarder, comme ils sont complètement leaders sur le marché, ils peuvent regarder les produits qui fonctionnent. Quand ça fonctionne, ils commencent à intégrer le code dans leur propre service. Et à terme, bah, ça va tuer l'innovation, ça va tuer l'open source, ça va tuer les éditeurs qu'on connaît. Et donc c'était assez intéressant, et il concluait en expliquant que bah, Google Cloud a pris le chemin complètement opposé, c'est-à-dire que Google Next, qui a eu lieu le mois dernier, si je dis pas de bêtises, Guillaume.
Ouais, deux-trois semaines. Ouais.
Voilà, le CEO de Google Cloud a annoncé, lui, un partenariat avec les éditeurs que Amazon s'est mis à dos, en partant de la logique que, bah, en fait, personne n'a à gagner au fait que les éditeurs open source meurent parce que y en a un qui a voulu les absorber pour se faire plus de parts de marché. Donc voilà, un article un petit peu long, mais assez intéressant, et puis qui récapitule tout si jamais vous n'avez pas suivi tous les épisodes de notre Dallas à nous. Et puis, on peut continuer avec une licence anti-abus du droit du travail en Chine. Alors, en Chine, vous le savez peut-être, mais depuis fin 2018, la croissance ralentit énormément. Et pour compenser ce défaut de croissance, les employeurs demandent maintenant à leurs salariés de faire du 996. Alors, du 996, c'est du 9h-21h, 6 jours sur 7. C'est bien entendu illégal, hein, la réglementation chinoise prévoit 40 heures par semaine max. Sauf que ben voilà, les entreprises tech subissent de plein fouet ce ralentissement également, donc des opérateurs, enfin des grands acteurs comme Baidu, Alibaba, etc. ont déjà annoncé des recrutements en baisse, voire des réductions d'effectifs. Il y a eu un site de recherche d'emploi qui a observé une baisse de 15% des offres publiées par les entreprises de la tech en janvier 2019 par rapport au même mois de l'année précédente, c'est assez énorme. Et ce 996, c'est pas quelque chose de nouveau, en fait, c'est quelque chose qui a un petit peu toujours existé, mais que les employés acceptaient plus facilement tant que leur salaire augmentait constamment. Sauf que voilà, là c'est plus du tout pareil. Alors c'est assez, d'ailleurs c'est assez toxique, hein, si vous voulez aller lire l'article, il y a des citations de grands patrons d'entreprises chinoises qui disent clairement que de toute façon les salariés doivent se défoncer quel que soit leur état de santé, leur situation familiale, etc. Enfin c'est extrêmement toxique. Et donc il y a une Kate Gu qui est une étudiante en thèse d'informatique à l'université de l'Illinois et qui est consultante juridique pour la startup Dimension qui est basée à Shanghai, a défini les termes d'une licence anti-996. Donc qui est apparu sur GitHub, c'est une licence qui va permettre aux développeurs qui l'intègrent dans leur code d'obliger les utilisateurs à respecter le droit du travail. Et donc en vertu de cette licence, les développeurs d'un logiciel libre vont pouvoir attaquer une entreprise qui utiliserait leur code et qui en même temps abuserait de ses employés en appliquant le 996. Et donc voilà, Kate Gu explique que c'est une arme supplémentaire, hein, finalement. Et il y a déjà plus d'une centaine de programmes qui ont été déposés sur GitHub en intégrant la licence. Voilà. C'est pas très joyeux et...
Non, mais c'est impressionnant. Non, mais c'est impressionnant. Enfin, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien que les gens réalisent au-delà des frontières et qui se.
Alors moi, je trouve ça extrêmement positif que dans un pays comme la Chine, qui, je veux dire, il y a quelques années de ça, était quand même dans les pays en développement, etc., que les gens n'hésitent pas à prendre des positions militantes. Je trouve ça fantastique. Parlons RGPD maintenant. La CNIL avertit qu'elle sera désormais moins conciliante puisque le règlement sur la protection des données personnelles est en place depuis maintenant un an. Donc on va dire que la première année, la CNIL s'est montrée tolérante puisqu'elle savait que l'adaptation pour les entreprises et puis même au-delà des entreprises, les associations, etc. allait prendre un petit peu de temps. Mais elle estime maintenant que la transition devrait être effectuée. Donc elle entend toujours faire preuve de discernement dans ses décisions, mais elle sera un petit peu moins tolérante. Et elle explique bien que c'est indispensable, en fait, pour donner du poids à la protection des données personnelles et limiter, empêcher des dérives. Si vous éditez un règlement, mais que vous ne prenez pas les sanctions qui sont prévues par ce règlement lorsqu'il y a infraction, bien évidemment, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Donc, mettez-vous à jour si ce n'est pas encore le cas. Un autre article que je savais pas trop où mettre, alors je l'ai mis là. Defining a Distinguished Engineer, donc c'est un article de blog de Jessie Frazel, qui a déjà parlé dans un autre blog des effets démotivants de ce qu'elle appelle le N plus 1 cheathead problem. Donc c'est ce qui arrive quand les personnes au-dessus de vous se comportent d'une manière pas très sympathique, pas très humaine, voire, comme elle le dit plus franchement, comme de la merde. Et donc elle a choisi de faire un article de blog sur ce qui fait selon elle un bon tech lead. Et je l'ai trouvé vraiment hyper intéressant. Pour moi, ça résume tout ce qui fait un bon tech lead. Donc il y a le fait, par exemple, de continuer à apprendre et de pousser les autres à continuer à apprendre également. Il y a le empower others. Jamais trop bien su comment traduire empower, mais c'est le fait de pousser, d'encourager en fait vos collègues.
Ouais, promouvoir.
Voilà. Et elle explique bien que les membres d'une équipe ont pas besoin d'une étiquette, tu vois, qui dit je suis head of machin ou je suis lead, je sais pas quoi, pour accomplir des choses. Ce dont ils ont le plus besoin finalement, c'est de soutien et de confiance de la part de leur hiérarchie. Elle insiste sur la nécessité de faire des critiques positives, c'est-à-dire amener de la critique, mais pour faire évoluer les gens, c'est tout à fait bénéfique, mais soyez prudents dans cette critique, hein, n'humiliez pas. Elle insiste aussi sur le fait de pas avoir besoin d'avis sur tout, parce que être tech lead, déjà, c'est pas tout connaître, c'est pas être un expert en tout, mais c'est aussi être capable d'utiliser sa propre expérience pour aider les autres à trouver la solution qui convient. Vous n'êtes pas obligé d'avoir sans arrêt la solution qui va bien. Elle insistait sur l'importance de certains, ce qu'on appelle les soft skills, donc la communication, l'humilité, l'empathie, c'est-à-dire déjà avoir l'envie de continuer et à grandir et à faire grandir les autres et à pas être dirigé par son ego. Être tech lead, c'est faire. T'es pas là pour exploiter les autres, t'es là pour les emmener vers le haut. C'est aussi un rôle où il faut être capable de faire de la communication entre les équipes, mais également d'être sensible au retour des clients, d'être capable de les intégrer, que ce soit des clients internes de la société ou d'autres équipes qui utilisent le produit ou externes. C'est être capable d'entendre ces retours et de les intégrer dans l'évolution du produit. C'est être capable d'allier la priorisation dans les livraisons et la prise de décision, à contrario de « eh ben on va tout livrer et on va cramer l'équipe ». Elle trouve que elle a un... Alors, ce qui s'entend complètement, un gros plus, c'est d'avoir travaillé sur plusieurs projets, d'être capable de construire un système qui soit résilient en anticipant toutes les fêlures potentielles. Bon, ça, effectivement... De toute façon, on n'attend pas en général d'un junior qui soit tech lead, hein. Heureusement.
Ça s'appelle l'expérience.
Pas tout de suite. Hein.
Voilà, hein, ça, c'est pas magique.
Ça prend du temps.
Et c'est aussi, être tech lead, c'est valoriser la qualité, la performance, la sécurité, et voire même, et je trouve qu'elle a complètement raison, c'est le respect de la vie privée des utilisateurs. Mais également la maintenabilité du code, que ce soit par les tests unitaires, les tests d'intégration, les commentaires, la doc, etc. Bref, c'est un petit peu être vigilant sur ces points-là. Être celui qui va ou celle qui va lever l'alerte. C'est également, alors ça c'était intéressant parce que j'ai vu ce problème dans certaines entreprises, c'est être ouvert sur la communauté et pas se contenter d'apprendre de ce qui se passe en interne à sa société, ce qui peut être le cas quand t'es dans certaines très très grosses sociétés comme Red Hat où parfois les gens ont tendance à se refermer sur ce qui se passe chez eux parce que il se passe déjà beaucoup de choses chez eux, mais en fait elle dit bien il faut continuer à regarder ce qui se passe ailleurs, il faut continuer à apprendre de ce qui se passe à l'extérieur, et également à l'opposé, être ouvert au feedback. Enfin non, alors c'est pas à l'opposé parce que c'est plus dans le sens accepter les retours en fait, ce qui est essentiel.
En plus, hein,
parce que quand on est un manager, effectivement, il faut aussi entendre les retours. Il faut pas se contenter de dire ah je suis le chef et donc j'ai tout bon. Non, être un manager c'est compliqué. On en a déjà parlé dans les cascodeurs et donc être ouvert au feedback. Et puis ne pas hésiter à faire appel à des experts, ce que je trouve intéressant parce que je pense que c'est pas un message qu'on assume souvent, mais voilà, le répète. Le rôle d'un tech lead c'est plutôt d'avoir une connaissance générale, d'être capable d'appréhender une architecture dans sa globalité, pas de tout savoir. Et donc à certains moments, il y a aucune honte à avoir à faire appel à des experts dans certains domaines. Et puis elle concluait avec le point qui est probablement le plus important, c'est have fun. Prenez votre boulot au sérieux, mais ne vous prenez pas au sérieux vous-même. Et je pense qu'effectivement, un bon tech lead, c'est aussi quelqu'un qui se prend pas trop au sérieux. Sinon, ça peut être compliqué.
C'est important le fun.
Voilà.
Non, mais je pense que les conseils sont quand même bien posés et représentent bien ce qu'on aimerait tous savoir et comme plus un, etc. Voilà, c'est quand même, il était bien sorti.
Ouais. Et vous avez vu la photo du trou noir.
Et on a vu cette impressionnante photo du trou noir et surtout la photo de la jeune femme qui a codé sur le projet.
Cathy Bowman.
Et enfin elle est extraordinaire cette photo. On sent toute l'excitation et la joie qu'elle ressent et je la trouve merveilleuse cette photo.
Des années à calculer, à préparer le truc, et là d'un seul coup tu vois l'image apparaître sur ton écran. Putain, c'est la photo du trou noir. Waouh, génial.
Voilà.
Mais
parce qu'il y a un mais malheureusement. Ouais. Malheureusement, Cathy a été rapidement victime de cyberharcèlement. Voilà. Donc il y a des internautes qui ont.
On appelle ça des abrutis.
À ce niveau-là, j'avoue que oui.
Enfin, encore abruti, c'est.
Ouais, le terme est faible quand on voit ce qui se passe. Enfin, quand on voit les efforts qui sont faits pour décrédibiliser, démonter. C'est assez pitoyable, effectivement.
Alors qu'elle est géniale, hein, cette jeune femme. En plus, j'avais vu une présentation qu'elle avait faite à TED et qui était encore avant que la photo soit sortie, où elle expliquait voilà comment on est en train de faire pour travailler tous ensemble pour arriver à avoir la première photo du trou noir, et déborde d'enthousiasme, d'énergie, etc. Et voilà, faut qu'il y ait des cons qui la fassent chier sur Internet à douter que ce soit vraiment elle. Alors c'est forcément un travail d'équipe, c'est pas elle qui a tout fait, d'accord, Mais la partie, les calculs des algorithmes précis, etc., c'est elle qui a fait ce boulot-là. Et il y en a qui s'amusaient à regarder si oui ou non, c'est elle qui avait fait le plus de lignes de code, etc., pour prouver par A plus B qu'en fait, c'est pas elle qui a fait la photo, mais c'est tous les autres mecs derrière. Alors qu'en fait, elle a fait un travail extraordinaire et que bien sûr il y a forcément une équipe de personnes derrière forcément.
Et ça va loin parce c'est que dégueulasse. Au-delà de la mauvaise foi, de critiquer, de remettre en cause ce qu'il fait, il y a même du fake news. Pour avoir suivi un peu les infos, enfin des gens ont été créés des faux comptes Twitter, des faux comptes Instagram et autres pour montrer l'inverse, son collègue, je me rappelle plus de son nom, mais donc elle a un de ses collègues qui est sur
Andrew
Twitter
Chell,
qui a pris parole pour essayer justement de défendre et dire que voilà, enfin il y avait pas de problème au sein de l'équipe et qu'au contraire c'était bien content d'avoir tout travaillé ensemble et tout, et donc lui aussi pareil, il s'est pris des faux comptes Twitter et autres pour contredire ce que le vrai disait. Enfin, c'est hallucinant, c'est-à-dire qu'on est loin, enfin on entend surtout parler du mansplaining et souvent des choses que les hommes peuvent faire souvent maladroitement vis-à-vis des femmes sans se rendre compte à cause des biais, etc. Mais là on est vachement plus loin, on est vraiment dans l'agression, dans le cyberharcèlement pour démonter et prouver que mais non ça peut pas être, enfin, voilà ça va mais super loin.
Mais franchement, tous ces connards-là, comment, enfin, ils ont pas une vie à côté, ils font rien de leur vie pour avoir à passer du temps à faire des conneries comme ça.
C'est surtout qu'ils doivent se trouver très, très, en faiblesse pour devoir se dire qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Enfin, c'est quand même assez hallucinant de se dire ça. Enfin, je comprends pas. J'avoue que bon, nous, ouais, ça.
C'est
nous...
triste.
Je pense que c'est l'éternel problème, c'est que vous deux, en l'occurrence, mais comme beaucoup des gens qui nous écoutent, n'avez pas ce genre de comportement, et donc ça vous est impossible, et ça me l'est moi-même, hein, de comprendre les motivations derrière ce genre de comportement. Voilà, je suis comme vous, je suis incapable de l'expliquer, je constate juste le truc.
Bon, Arnaud, quand est-ce qu'on se le fait, ce fake compte de Audrey?
Ah, mais il est déjà créé, t'es pas au courant? Ah bah, je te donnerai le random.
Non, mais alors là, bravo, vraiment.
Non, mais bref, en tout cas, moi, quand j'ai vu la news initiale, hein, pas ce qui s'est passé par la suite, je me dis, tu sais, moi, j'ai tout de suite pensé au film Interstellar, avec cette magnifique image, là, du trou noir et tout. Je me suis dit, ah putain, ça y est, là, c'est pas de la science-fiction. Cette nana-là, elle a réussi à calculer une image du trou noir, et j'étais waouh putain, c'est la première photo du trou noir qu'on voit, j'étais super impressionné quoi. Et après j'ai vu tout la charge de mémoire.
Moi ce qui me gêne, c'est surtout qu'elle a jamais prétendu que c'était elle toute seule qui l'avait fait, en fait elle
a toujours dit que
c'était un travail d'équipe. Tout à fait. Et il y a quand même eu un gars pour faire une vidéo disant que elle a fait 6% du boulot et elle récupère 100% du crédit, et effectivement là tu te dis mais pourquoi.
Mais après, c'est toujours la mienne est la plus longue, tu pisses plus loin, tu fais plus de lignes de code, alors que tout le travail aussi mathématique qu'elle a fait pour arriver à ces lignes de code qui font ces calculs de, en fait, ça fait la synthèse de plein de, donc pour faire une photo comme ça du trou noir, il faut à cette distance-là, il faudrait un télescope de la taille de la Terre, et en fait par un système de calcul d'interférométrie de plusieurs télescopes en même temps à plusieurs intervalles de points dans le temps ont pris des images et refaire la synthèse de tout ça, mais c'est pas trivial, donc c'est pas n'importe qui peut faire ça, en plus les calculs qu'elle a fait là, donc c'est peut-être que 6% des lignes de code, parce que après t'as d'autres trucs de traitement numérique de je ne sais quoi, mais c'est 6%, il y aurait pas eu ces 6% là, on n'aurait pas eu la photo, hein. Donc
c'est sûr,
bref.
Eh ben, je pense que, tu vois, le seul truc à retirer de ça, c'est que Katie Bowman fait un excellent exemple pour vos filles, vous qui êtes papa de petites filles.
Exactement.
C'est un très très bel exemple.
Ça, chapeau à elle en tout cas. Et à son équipe, bien sûr.
Bravo voilà, Katie.
Voilà, ouais, chapeau à cette équipe et voilà. Dommage que ça se termine sur ce genre de...
Et vraiment, enfin moi je suis très heureuse que son collègue en fait ait rapidement intervenu, j'ai trouvé ça très très chouette.
C'est bien aussi,
qu'il prenne la parole et qu'il laisse pas le truc pourrir, j'ai trouvé ça très classe.
C'est
bon,
clair.
On va finir sur une note un peu plus gaie, sur un manifeste écologique des professionnels de l'informatique. Donc, Jean-François Fourmont a créé ce manifeste écologique, partant du constat que, donc on l'a vu récemment, il y a eu pas mal de mobilisations, notamment des jeunes et des étudiants. Il y a des lycéens qui faisaient la grève pour protester contre le réchauffement climatique, pour demander aux États de prendre des mesures. Et Jean-François faisait ce constat que, en tant que professionnel de l'informatique, on a une chance un peu particulière dans le monde actuel, c'est qu'on a la chance de pouvoir choisir pour qui nous souhaitons travailler. Et donc Jean-François aimerait qu'on s'inspire de ces étudiants, ces étudiantes, pour signifier aux entreprises qui sont responsables du réchauffement climatique et à celles qui les financent que nous refuserons dorénavant de travailler pour elles. Donc il y a un manifeste qui est en ligne et qui est totalement RGPD compliant, je précise, et que vous pouvez donc signer. Votre nom apparaîtra dans la liste et voilà. Et alors Jean-François m'avait contacté sur LinkedIn et en rigolant m'avait dit écoute, il y a surtout des développeurs PHP, alors je pense qu'il nous faut des javaïstes, donc ça va vous faire réagir, donc c'est très bien. Voilà. D'accord. Donc javaïste, scalaïste, kotliniste, whatever, grooviste, tous allez-y. Signez ce manifeste, et je pense qu'effectivement, enfin, c'est intéressant qu'on prenne part au débat, en fait, puisqu'on effectivement on a un réel poids aujourd'hui dans les dans les recrutements, donc ça peut être intéressant d'en profiter pour faire changer les choses.
Effectivement. Et maintenant, sans transition aucune, nous allons passer à l'outil de l'épisode. Et nous avons la chance d'avoir un podcast. C'est Manuel Payet qui va nous parler d'Eclipse Che.
Bonjour les cascodeurs, ici Manuel Payet de Montréal. Je voulais juste vous parler dans ce podcast de Eclipse Che, C-H-E. Je suis pas bien sûr que ça se prononce comme ça, mais on va partir là-dessus. Donc Eclipse Che, c'est l'idée Eclipse qu'on connaît, mais qui tourne dans un navigateur web. Donc j'ai testé moi ça sur Firefox, la version V7, qui se base sur l'HTML5. Donc la différence avec un Eclipse tel qu'on le connaît, c'est que en plus du code source, il y a une notion de runtime. Donc pour avoir un environnement d'exécution en plus du code source. Et ce runtime, en fait, c'est basé sur des conteneurs. Donc la technologie de source, c'est des conteneurs. Donc on peut soit utiliser directement Docker, soit on peut utiliser Kubernetes ou alors OpenShift. Donc, c'est assez sympa, c'est quand on crée son workspace, on dit, bon, voilà, j'ai besoin de tel stack. Bon, imaginons qu'on va faire du Quarkus. Dans notre stack, on va dire, oui, j'ai besoin d'avoir un Graal VM, j'ai besoin d'avoir Maven. Et puis, voilà. Donc, on dit ça. Après, on dit, voilà, mon code source, il se trouve à tel endroit. Donc là, on va pouvoir le connecter avec un GitHub ou avec un repo Git tout à fait classique. Puis là, on arrive dans quelque chose qui ressemble vraiment à ce qu'on a dans Eclipse, avec de l'autocomplétion, avec du debug, avec un petit terminal si on a envie de commencer à taper des commandes dans notre, en fonction de notre time, dans notre runtime. Et puis voilà. Donc, puis après, au niveau de comment est-ce qu'on lance Eclipse Che, il y a plusieurs solutions. Soit on va en mode serveur central, c'est-à-dire que imaginons qu'il y a un serveur sur lequel on a un big serveur sur lequel nos développeurs ils vont se connecter avec un utilisateur qui leur est propre. Ils ont leur propre workspace. La seule différence, c'est que cette fois, ils ont rien à installer sur leur machine. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils se connectent et hop, ils ont un workspace. Ça leur prend une minute à se connecter et puis après, ils peuvent juste travailler, quoi. Et aussi une notion de factory. C'est-à-dire qu'imaginez là, vous voulez que quelqu'un teste votre super framework de la mort, là. Ben vous faites un lien, ça va lui créer à chaud un workspace tout vide, tout propre, sur lequel il va pouvoir tester et puis lancer du code comme ça, un proof of concept genre en 3 minutes, quoi, un peu à la mode Catacode ou des choses comme ça. Ou alors ici il y a un mode standalone, c'est-à-dire que on rajoute par exemple dans ce GitHub un che file, c'est un fichier qui va décrire comment est-ce que notre code source doit être exécuté, dans quel environnement, etc. À partir de là, on clone notre repo sur notre machine, on exécute une petite commande Docker qui va bien, donc c'est toujours la même, bien évidemment, et puis voilà, 5 minutes plus tard, après que les images aient été poulées, on va sur localhost 2. je sais plus le port, puis à partir de là, on peut commencer à développer avec le, bien sûr, quand on modifie le code source, c'est validé sur notre, sur notre ordinateur, et puis ben voilà, après on peut juste enregistrer et puis on peut juste committer avec Git son code source. Voilà. Donc voilà, c'est un outil que je trouvais vraiment chouette. J'espère que j'ai été clair. Et puis bah en tout cas super boulot avec les Cascodeurs. Je suis vraiment content d'avoir découvert ce podcast et puis j'attends le prochain. Bonne soirée ou bonne journée à vous.
Eh bien, merci Manuel pour cet outil de l'épisode. Quelques mots pour la rubrique du débutant. Comment utiliser la console JavaScript au-delà du bon vieux console.log?
Ben oui, parce que vous en avez peut-être marre de déplier les objets JavaScript que vous loguez pour voir leur contenu. Alors, il est temps d'apprendre les bonnes méthodes. Donc, il y a notamment cet article qui parle de console.tab que vous pouvez utiliser pour les listes d'objets.
Celui-là, j'aime bien.
Ouais, il est pratique, celui-là. Il y a également console.group qui s'utilise avec console.groupend pour regrouper des logs unitaires. Donc, si vous voulez loguer, je sais pas, d'abord le username et puis des valeurs spécifiques, machin, ligne par ligne, ben, vous pouvez regrouper tout ça dans un même message. L'utilisation également du console.warn et du console.error qu'on voit parce que c'est utilisé par les librairies qu'on utilise, mais on le fait rarement nous-mêmes, et pourtant ça peut être assez pratique parce que console.warn va s'afficher sur un fond jaune alors que console.error va avoir une police rouge, donc ça va vous permettre de différencier assez rapidement si vous avez des problèmes potentiels. Il parle également de la possibilité, alors ça je connaissais pas du tout, de la possibilité.
Ah, ça je connaissais pas non plus.
Voilà, d'ajouter des styles custom.
Avec les couleurs là?
Ouais.
Ah ouais.
Pour différencier les appels
d'API.
C'est vachement bien, ça vous permet de mettre un petit label en fait de couleur avant le log. Console.trace pour login stack trace, et puis pareil, un autre truc intéressant, le console.time qui vient s'utiliser avec le console.timeend pour mesurer le temps pris par un bout de code. Alors si vous êtes plus talk que blog, il y a Christophe Jolivet qui avait fait un talk sur le sujet, c'était un TIA si je me souviens bien, à DevOps Belgique, cool. Il y a peut-être 2 ou 3 ans, enfin Christophe pourra préciser quand il écoutera l'épisode, mais qui était très intéressant, qui reprenait ces choses-là et qui était très très bien fait, donc vous pouvez aussi jeter un œil au TIA de Christophe.
Cool.
Très intéressant. J'avoue que je vais améliorer mon code JavaScript au-delà des consoles.log.
Je sens que tu vas passer à un autre niveau là, Arnaud.
Je me sens pousser des ailes. Là, je t'avoue que voilà.
Je savais qu'il allait plaire cet article. Je le savais.
J'ai une démo en plus à faire où j'ai un beau front-end Vue.js que j'ai codé moi-même. J'en suis tout fier. Et justement, je vais pouvoir mettre à jour un peu mes consoles.log là. C'est cool. Et sinon, on va finir avec les conférences. Et en plus, on a un autre podcast, cette fois-ci par Florent, qui va nous parler de Hack Commit Push, une nouvelle conférence qui a lieu à Paris le 15 juin.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Florent Biville et je suis développeur à Pivotal. Alors pour les fidèles des Cascodeurs, j'ai eu la chance d'être interviewé par Emmanuel sur Neo4j il y a déjà longtemps. C'est l'épisode 78, si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de ça, mais plutôt d'un nouvel événement sur la scène tech parisienne. Il s'agit de Hack Commit Push, qui dure toute la journée du 15 juin dans les locaux de la Web School Factory à Paris, dans le 13e arrondissement. Donc, dans la lignée des Meetup Hackergarten, l'idée de cet événement, c'est de réunir des personnes qui contribuent à des projets libres open source et de les faire encadrer des nouvelles et nouveaux venus, indépendamment de leur niveau, vers des premières contributions. On a déjà à ce jour des projets open source de renom qu'on a pu confirmer, comme Gradle, Neo4j, Maven, et aussi Riff, qui est le cœur open source de la solution Function as a Service de Pivotal sur lequel je travaille quotidiennement. D'autres projets vont bien sûr s'ajouter à la liste. On est d'ailleurs, dans l'équipe d'organisation, ouvert à vos propositions. Si vous souhaitez porter un projet open source et accompagner des personnes vers des contributions pour celui-ci, n'hésitez pas à nous contacter. Donc à l'heure de l'enregistrement, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, hein, mais cela ne saurait tarder. Donc pour obtenir les informations complètes et à jour sur l'événement, je vous invite à nous suivre sur Twitter avec le compte HackCommitPush, HackCommitPush, tout en minuscules sans signe de ponctuation, ou encore de vous rendre sur notre site https://hack-commit-pu.sh. Donc j'espère vous retrouver nombreux et nombreuses le samedi 15 juin pour contribuer ensemble à de l'open source. À bientôt.
Et donc, Hack Commit Push, moi j'avais, en fait, les Hacker Garten, c'est un truc qui avait commencé un peu avec la communauté Groovy il y a déjà de nombreuses années, et fait par Andrés Almirall. Et c'est plutôt cool, et on les a retrouvés du coup à des conférences bah, comme Devox Belgique, etc., où on a un petit coin pour contribuer à plusieurs sur des projets open source. C'est une chouette intro, je trouve, à la contribution aux projets open source. Et ça paraît pas, mais je veux dire, parmi nous, on serait pas où on est aujourd'hui, on n'aurait pas les jobs qu'on a, on n'aurait pas cette visibilité-là qu'on a si on n'avait pas contribué, par exemple, à des projets open source. Donc j'encourage les gens. Moi, j'ai beaucoup appris. Je suis devenu un bien meilleur développeur en contribuant à l'open source. Donc c'est cool. Sinon, dans les autres conférences, qu'est-ce qu'on a?
Alors,
Degen, c'est quoi cette Degen?
C'est pas une conférence. Degen, c'est un compte à rebours à deux faces. C'est un projet qui a été lancé par Antoine Vernois. Et donc c'est un petit compte à rebours qui est configurable de 1 à 99 minutes. Et une fois qu'il est lancé, il indique le temps restant en minutes puis en secondes pour les 99 dernières secondes. Et puis lorsque 50% du temps est écoulé, il change de couleur. Il change encore à 75%. Alors en fait, c'est un outil que j'ai mis parce que bon, bah, nous, à Devox France, on a la chance de pouvoir passer par le Palais des Congrès qui nous loue le matériel qui va bien. Et puis, donc, on a les gros afficheurs pour les speakers, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un vrai plus. Et dans beaucoup de conférences, bah, souvent, c'est un gentil bénévole qui va tenir les feuilles, tout ça. Ce qui est pas toujours facile. Et, donc, je trouve le projet d'Antoine hyper sympa. Il a un prix minimum qui est à 24 euros. Et parce que c'est du do it yourself, quoi. Voilà. Et il a un prix conseillé qui est à 72 euros qui prend en compte le temps de fabrication. Et donc, je l'ai rajouté parce que je me suis dit que ça intéresserait peut-être, bah, certains de nos amis organisateurs de conférences, vu qu'il y en a maintenant beaucoup en France et qu'ils n'ont pas les mêmes budgets et voilà.
D'accord. Sinon, plein de conférences, Riviera Dev, où on sera du 15 au 17 mai, Endcraft, 16 au 17 mai, Mixit, 23-24 mai, Best of Web, 6 et 7 juin, DevFestly, le 14 juin, Vox Days Luxembourg, 20 et 21 juin, Sony Tech, 27 et 28 juin pour mon anniversaire, Jug Summer Camp, le 13 septembre, vous avez vu comment je l'ai glissé, celle-là?
J'ai vu, ouais.
DevFest Nantes, le 21 et 22 octobre, et Codeur en scène, bah, près de chez toi, Audrey, le 21 novembre, plein de conférences à venir. Et voilà. Merci au Crowdcaster.
Merci à Arnaud qui nous a rejoint alors que c'était pas prévu. Le fait que vous l'ayez pas entendu beaucoup.
Toujours avec plaisir pour.
Vincent devait être là, Vincent n'était pas là, donc Arnaud m'a dit bon bah alors j'arrive, je vais voir comment je peux aider et nous t'en remercions.
Nos experts Java EE qui nous ont lâchés alors qu'on devait parler de Java.
Ah là là là, c'est pas possible.
Et ben en tout cas merci à tous nos auditeurs, à tout le monde et on vous fait de très gros bisous et à très bientôt ici
à très
ou là.
Vite.
À bientôt.
Ciao
ciao. Ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.
Oh, ce ciao ciao de star là.
Salut ça.